seulement je pouvais sérieusement croire, à la toute fin, n'avoir vu aucune de ces horreurs. Croire qu'un choc mental était la cause de toutes mes suppositions, la vision ultime qui avait provoqué ma fuite de la ferme désolée d'Akeley, puis m'avait fait démarrer sa voiture pour une course de nuit dans les montagnes du Vermont. Ce serait ignorer les faits les plus élémentaires de ce qui vint clore cette expérience. Malgré l'intensité de notre échange d'informations et spéculations avec Henry Akeley, il ne m'est rien possible de prouver quant à ce que j'y ai vu et entendu, et de la netteté évidente de l'impression causée sur moi par ces choses, et si j'ai tort ou raison dans mes déductions hideuses, même aujourd'hui je ne peux rien en prouver. Après tout, la disparition d'Akeley n'établit rien. Personne n'a rien trouvé qui cloche dans sa maison, hors les marques de balles sur les murs, dedans et dehors. C'est juste comme s'il était parti à l'ordinaire pour une balade dans les crêtes et n'en était pas revenu. Même pas un signe que quiconque soit venu ici ou que ces horribles machines et cylindres aient été entreposés dans son bureau. Qu'il eût craint mortellement ce qui peuplait ces crêtes boisées où il était né et avait grandi ne signifiait rien non plus. Des milliers d'individus sont sujets à de telles peurs morbides. Son excentricité aurait suffi, de plus, à expliquer ses actes étranges et ses appréhensions ultimes. Toute cette affaire commença, pour ce qui me concerne, avec l'inondation historique et sans précédent qui frappa le Vermont le 3 novembre 1927. À l'époque, j'étais chargé de cours en littérature à l'université Miskatonic d'Arkham, Massachusetts, et pratiquant amateur et enthousiaste du folklore de Nouvelle-Angleterre. Peu de temps après l'inondation, parmi les diverses comptes rendus des épreuves, souffrances et secours organisés qui remplissaient les journaux, apparurent d'étranges histoires à propos de choses qu'on avait aperçues, ballottant dans certaines des rivières en crue, au point que mes amis furent nombreux à s'embarquer dans d'interminables discussions et à en appeler à moi pour savoir de quelle lumière je disposais sur le sujet. Je me sentis flatté de ce que mes études du folklore fussent ainsi prises au sérieux, et fis ce que je pus pour éclaircir ces récits vagues et confus qui semblaient clairement une résurgence de quelques anciennes superstitions rurales. Cela m'amusa de constater comment des personnes de haute éducation insistaient sur l'idée que, sous les rumeurs, devait bien résider une couche obscure et distordue de faits réels. Les récits ainsi portés à ma connaissance provenaient principalement de coupures de journaux. On y retrouvait cependant le fil d'une source orale, qui fut aussi répétée directement à un de mes amis dans une lettre de sa mère, vivant à Hardwick, Vermont. Dans chaque cas, la description type de ces choses était pratiquement identique, même si elles se révélèrent émaner de trois sources séparées. La première provenait de la rivière Winooski, près de Montpellier. Une autre était attachée à la West River, dans le comté de Windham. Une troisième, enfin, provenait de la vallée de la Passamaquoddy, au-dessus de Lyndonville, comté de Calédonie. Bien sûr, beaucoup des articles épars mentionnaient d'autres sources, mais à les compiler, elles semblaient toutes se référer à un de ces trois premiers cas. Chaque fois, les habitants du lieu rapportaient avoir vu une ou plusieurs formes inquiétantes et surprenantes dans les eaux dévalant brutalement depuis ces crêtes où personne n'allait jamais, et dans leur tendance générale reliaient d'eux-mêmes leurs observations à un cycle mi-oublié de légendes que chuchotaient les plus anciens qui les ressuscitèrent pour l'occasion. Ce que les gens disaient avoir vu consistait en formes organiques telles que jamais ils n'en avaient observé auparavant. Bien sûr, dans cette période tragique, il y eut de nombreux corps humains noyés et brassés par les courants. Mais ceux qui décrivaient ces formes étranges étaient quasiment sûrs qu'il ne s'agissait pas de corps humains, malgré quelques ressemblances superficielles dans la taille et le dessin général. Ni non plus, rapportaient les témoins, d'aucune espèce d'animal connue dans le Vermont. c'étaient des choses rosâtres, d'environ 5 pieds de long, avec un corps de crustacés marqué par une large paire d'ailes dorsales à très fine membrane et plusieurs jeux de branchies articulées. Et là où aurait dû être la tête, une sorte de volume ellipsoïde convexe, recouvert d'une multitude de très courtes antennes. La façon dont ces comptes rendus de sources différentes tendaient à coïncider de très près était vraiment à prendre au sérieux. Mais il fallait en modérer le constat par le fait que ces anciennes légendes, qui avaient circulé longtemps dans ce pays de bois et crêtes, en proposaient des descriptions à la fois morbides et très colorées, qui avaient certainement marqué par anticipation l'imagination des témoins actuels. Ma conclusion était donc que ces témoins, dans chaque cas de naïfs colons de ces régions rudes, avaient aperçu des cadavres humains flottants et gonflés, ou ceux d'animaux de ferme, emportés par les tourbillons et courants, et que cela avait permis aux légendes mi-enfouies d'envahir ces objets de pitié en leur conférant ces attributs fantastiques. Ce folklore ancien, même ainsi devenu flou, évasif et en partie oublié par la génération présente, était d'un singulier caractère et à l'évidence reflétait l'influence de contes indiens encore plus primitifs. Je les connaissais en particulier, même sans m'être jamais rendu dans le Vermont, par la monographie d'Eli Davenport, presque introuvable désormais, et qui rassemble un matériau oral collecté dès avant 1839 auprès des plus anciens habitants du pays. Ce matériau coïncidait de plus ou moins près avec les contes que j'avais personnellement recueillis des paysans les plus âgés des montagnes du New Hampshire. Pour les résumer brièvement, il faisait allusion à une espèce cachée d'êtres monstrueux qui se dissimulait quelque part dans ses crêtes les plus reculées, les bois les plus profonds des pics les plus hauts, et ces sombres vallées où les torrents sourdent de sources inconnues. On apercevait rarement ces créatures, mais ceux qui s'étaient aventurés plus loin que d'habitude sur les pentes de certaines montagnes ou dans certaines gorges plus profondes et escarpées, que même les loups évitaient, convergeaient tous pour attester de leur existence. On le constatait à d'étranges empreintes de griffes dans la glaise au bord des cours d'eau ou au long des chemins de lande, de même qu'on trouvait parfois de curieux cercles de pierre, l'herbe alentour toute flétrie, qui ne pouvait résulter d'un arrangement naturel ou formé par la nature. On faisait aussi état de certaines grottes à la profondeur problématique, au flanc de ces mêmes crêtes, et dont l'ouverture avait été obstruée par des rochers d'une manière difficilement accidentelle. La proportion moyenne de ces étranges empreintes, à la fois vers l'ouverture ou s'en éloignant, si bien sûr on pouvait apprécier la direction prise selon la forme de ces empreintes, y augmentait considérablement. Pire que tout, il y avait ces choses elles-mêmes. Dans le crépuscule des vallées les plus reculées et ces denses forêts presque à la perpendiculaire qui surplombaient les limites où il était possible d'accéder, des gens plus aventureux disaient les avoir vus, même si ce fut rarement. Ça aurait été moins inconfortable si ces bribes de récits concernant ces créatures, dont l'égarement était manifeste, n'avaient pas toutes correspondu si bien. Dans le cas présent, ces rumeurs dans leur ensemble affirmaient plusieurs points communs, certifiant que ces créatures étaient une sorte de crabe mou, rose vif, à taille humaine, avec plusieurs paires de pattes et deux grandes ailes comme de chauves-souris dans le milieu du dos, parfois marchant sur toutes leurs pattes, parfois seulement sur leurs pattes arrière, utilisant les autres pour porter de gros objets d'une nature indéterminée. Lors d'une occasion particulière, on les avait surprises en nombre considérable, remontant par rangées de trois un cours d'eau peu profond dans une formation parfaitement disciplinée. Une autre fois, un spécimen avait été vu volant, s'élançant lui-même du sommet d'une crête dépouillée et solitaire à la nuit tombante, silhouette se découpant un instant sur fond de pleine lune et s'évanouissant dans le ciel d'un seul grand battement d'ailes. Dans toutes les versions de ces récits, ces êtres semblaient accepter de laisser les humains tranquilles, même si, à l'occasion, on les avait tenus responsables de la disparition de quelques individus trop entreprenants, particulièrement des gens qui avaient construit leur maison trop près de certaines vallées ou trop haut dans certaines montagnes. On en vint à considérer qu'il était déconseillé de s'installer dans certaines localités, et l'idée en persistait alors longtemps après que la cause en était oubliée. Les gens levaient les yeux en frissonnant vers certains précipices des montagnes environnantes, même sans se souvenir de combien de colons s'y étaient perdus et de combien de fermes avaient été réduites en cendres sur les basses pentes de ces vertes et sinistres sentinelles. Mais si, à lire les plus anciennes légendes, ces créatures avaient semblé ne s'en prendre qu'à ceux qui se risquaient dans leur intimité, dans les récits plus tardifs, on évoquait leur curiosité respectueuse à l'égard des humains et leur tentative d'établir des contacts secrets avec le monde des hommes. Certains récits établissaient que d'étranges empreintes de griffes avaient été retrouvées le matin sous les fenêtres de telles fermes ou lors d'occasionnelles disparitions dans les régions proches des zones qu'on disait hantées. D'autres récits faisaient état de chuchotements et de sons imitant la voix humaine, faisant de louches propositions aux voyageurs isolés sur les routes et chemins de terre dans ces forêts perdues, où parlaient d'enfants effrayés et retrouvés hors de sens par ces mêmes choses vues et entendues là où la forêt sauvage venait jusqu'aux murs et cours de certaines fermes. Dans les plus récentes versions de ces légendes, précédant tout juste le déclin des superstitions et l'abandon de la fréquentation de ces zones redoutées, on trouvait des récits choqués du changement mental répugnant qui, à cette époque, avait saisi tels ermites ou paysans éloignés qu'on s'était mis à craindre et dont on chuchotait qu'ils s'étaient eux-mêmes vendus aux créatures étranges. Dans un des comtés du Nord-Est, il semblait à la mode vers 1800 d'accuser ces reclus excentriques et impopulaires d'être les alliés ou les représentants des créatures abhorrées. Quant à ce qu'étaient ces choses, les explications naturellement variaient. Le nom qu'on leur attribuait le plus généralement, c'était « eux » ou bien « les vieux », même si d'autres termes avaient pu s'imposer de façon transitoire selon les lieux. Peut-être que le puritanisme habituel à la masse de ces colons les avait habitués à traiter sans ménagement des choses de l'enfer et leur avait donné les bases d'une spéculation théologique scrupuleuse. Ceux qui apportaient avec eux l'héritage des légendes celtiques, principalement ceux du New Hampshire, dont l'origine était écossaise ou irlandaise, ou ceux dont les parents étaient venus dans le Vermont grâce aux aides à la colonisation du gouverneur Wentworth, les reliaient vaguement aux fées malignes et aux petits êtres des marais et tourbières, et se protégeaient d'eux par les bribes de conjurations qui les accompagnaient depuis bien des générations. Mais c'étaient les Indiens qui avaient les théories les plus fantastiques de tous. Même si les légendes des différentes tribus divergeaient, elles établissaient un consensus de croyances certains quant à leur particularité vitale, et s'accordaient unanimement à prétendre que ces créatures n'étaient pas natives de cette terre. Les mythes des Penacooks, qui sont les plus cohérents et imagés, nous apprennent que les ailés viennent de la grande ourse dans le ciel et vivent dans des mines de nos montagnes terrestres pour en extraire un certain minerai qu'ils ne trouvent dans aucun autre monde. Ils ne vivent pas ici, rapportent ces mythes, mais y établissent simplement leur camp, puis repartent avec de grosses cargaisons de minerai vers leurs propres étoiles dans le nord. Ils ne sont agressifs envers les peuples terrestres que si on les approche de trop près ou qu'on les espionne. Les animaux les craignent d'une peur instinctive, et non parce qu'ils en seraient les proies. Ils ne peuvent rien manger des ressources terrestres ou animales, mais apportent leur propre nourriture depuis les étoiles. C'est mal faire que de venir les observer, et quelques jeunes chasseurs qui s'étaient risqués dans leur crête n'étaient jamais revenus. C'était mal aussi d'écouter ce qu'ils chuchotent la nuit dans les forêts, avec ces voix qui semblaient comme un essaim d'abeilles cherchant à contrefaire les voix humaines. Ils savaient le langage de toutes les sortes d'hommes, Penacooks, Hurons, hommes des cinq nations, mais ne semblaient avoir besoin d'aucun langage pour échanger entre eux. Ils parlaient avec leur tête, laquelle changeait de couleur de différentes façons pour signifier des choses distinctes. Toutes les légendes, bien sûr, celles des colons comme celles des Indiens, s'étaient éteintes au cours du XIXe siècle, hors certains embrasements ataviques. Les colons du Vermont étaient devenus sédentaires. Une fois les routes et habitations établies selon un plan relativement fixe, ils se souvinrent de moins en moins quelle peur avait déterminé ces évitements, et même qu'il y eut ces peurs et ces évitements. La plupart des gens savaient simplement que certaines régions montagneuses étaient considérées comme hautement malsaines, stériles, généralement inaptes à la culture, et que rien de ces lointains ne leur aurait apporté mieux que ce qu'ils trouvaient là auprès. La routine, les habitudes, le simple intérêt économique à cette époque s'était si bien ancré dans les lieux agréés qu'il n'y eut plus aucune raison de les quitter, et c'est plus par indifférence que par dessein qu'on laissa à l'écart les crêtes maudites. Hormis durant de rares alarmes, seules d'adorables grand-mères et quelques nonagénaires confinés dans le passé évoquaient à mi-voix ces êtres étranges vivant dans leurs crêtes. Et ceux même qui rapportaient ces bruits admettaient qu'il n'y avait plus rien à en craindre maintenant qu'ils étaient familiarisés à la présence de maisons et de cultures, et que les humains laissaient rigoureusement à l'écart le territoire qu'ils s'étaient choisi. Tout cela, je le savais par mes lectures et par certains récits folkloriques collectés dans le New Hampshire. Quand, après l'inondation, les rumeurs commencèrent à réapparaître, je pus facilement reconstituer de quel arrière-fond d'imaginaire elles procédaient. Je pris grand soin d'expliquer tout cela à mes connaissances et fus amusé à proportion quand plusieurs esprits contestataires continuèrent d'insister sur de possibles éléments véridiques dans ces comptes rendus. Ces personnes mettaient l'accent sur le fait que les légendes primitives avaient une signification homogène et uniforme, et que la nature virtuellement inexplorée des montagnes du Vermont rendait imprudent d'être trop dogmatique à propos de qui pouvait ou de qui ne pouvait pas vivre parmi elles, et qu'il ne pouvait pas se contenter de l'assurance qui était la mienne, attestant que l'ensemble de ces mythes était une figure connue et récurrente des croyances habituelles à une bonne part de l'humanité, déterminée par les phases primitives de l'expérience imaginaire, reproduisant toujours le même type de fantasmagorie. Il n'était d'aucune utilité de démontrer à de tels contestataires que les mythes du Vermont ne différaient que de très peu dans leur essence des autres légendes universelles incluant une personnification naturelle, celle qui avait peuplé le monde ancien de faunes, dryades et satyres, suggéré les Calicanzari de la Grèce moderne et donné aux sauvages contrées du pays de Galles ou de l'Irlande leurs sombres allusions à d'étranges petites et terribles espèces peuplant les souches et les terriers. Pas plus utile de leur signifier les croyances encore plus étonnamment similaires des peuplades tribales du Népal dans l'effrayant Migo ou abominable homme des neiges, qui se cachait hideusement dans les pics et glaciers des sommets de l'Himalaya. Quand je leur faisais part de ces évidences, mes opposants me rétorquaient que cela ne faisait que renforcer l'historicité factuelle des anciens contes. Qu'on pouvait en déduire l'existence réelle sur la Terre d'une espèce étrange et primitive, amenée à se cacher après l'apparition et la domination de l'humanité, et dont on pouvait raisonnablement concevoir qu'un nombre restreint d'individus ait survécu jusqu'à des temps relativement récents, ou même dans le présent. Plus je me moquais de telles théories, plus mes amis s'entêtaient à les confirmer. Même sans l'accumulation de ces légendes, ajoutait-il, les récents comptes rendus étaient plutôt clairs et cohérents, détaillés et sainement prosaïques dans leur façon de raconter, pour qu'on ne puisse les ignorer complètement. Deux ou trois des extrémistes les plus fanatiques allaient si loin qu'ils supposaient parfaitement plausible l'hypothèse de contes indiens conférant à ces êtres cachés une origine non terrestre. Citant les livres extravagants de Charles Fort, lorsqu'il prétendait que des voyageurs d'autres mondes et d'autres espaces avaient souvent visité la Terre. La plupart de mes adversaires, cependant, s'en tenaient plutôt à une vision romantique, tentant de transférer à la vie réelle la tradition fantastique de ces petits êtres cachés, rendus populaires par les horrifiques mais belles fictions d'Arthur Machen. Comme de bien naturel en de telles circonstances, ce débat intense prit finalement la forme de lettres ouvertes dans l'Arkham Advertiser, et quelques-unes furent reprises dans la presse de ces régions du Vermont d'où provenaient les récits de l'inondation. Le Woodland Herald consacra une demi-page à des extraits de lettres des deux camps, tandis que le Brattleboro Reformer réimprima intégralement une de mes longues analyses historiques et mythologiques, entraînant une discussion complémentaire dans le Penrifter, où on conforta et applaudit mes conclusions sceptiques. Ainsi, au printemps de 1928, étais-je devenu une figure connue du Vermont, indépendamment du fait que je n'avais jamais mis un pied dans le pays. Alors me parvinrent ces lettres de Henry Eckley, dont la récusation me fit une impression si profonde, et qui m'emmenèrent pour la première fois au royaume fascinant des précipices verts et des torrents grondants de ces forêts sauvages. La plus grande partie de ce que je sais aujourd'hui de Henry Wentworth Eckley, après ce qui s'était passé dans sa ferme solitaire, je pus l'établir en correspondant ensuite avec ses voisins, ainsi qu'avec son fils unique en Californie. Je découvris qu'il était le dernier représentant sur sa terre natale d'une longue lignée de juristes, administrateurs et gentlemen farmers. Avec lui, cependant, la souche familiale s'était détournée des affaires pratiques pour se consacrer à l'étude intellectuelle. Il avait dûment étudié les mathématiques, l'astronomie, la biologie, l'anthropologie et le folklore à l'université du Vermont. Je n'avais jamais entendu parler de lui auparavant, et il ne donnait pas beaucoup de détails autobiographiques quand il communiquait. Mais dès le début, je compris être face à un personnage de tempérament, d'éducation et d'intelligence, bien que vivant reclus avec si peu de raffinement matériel. Malgré la nature incroyable de ce dont il me faisait part, je ne pus m'empêcher de suite de prendre Eckley au sérieux, bien plus que je ne l'avais fait d'aucun des précédents réfutateurs de mes opinions. D'abord, il vivait véritablement très près du phénomène étudié, visible et tangible, même s'il en spéculait bien grotesquement. Et d'autre part, il souhaitait avec assurance établir ses conclusions dans une forme telle que le faisaient les vrais scientifiques. Il n'avait pas de préférences personnelles à mettre en avant, mais était toujours guidé par ce qu'il considérait comme une preuve solide. Bien sûr, d'abord, je considérais qu'il se trompait, mais portais à son crédit qu'il se trompait très intelligemment. Et à aucun moment je ne me confondis avec certains de ses amis pour attribuer ses idées et sa peur des crêtes solitaires à un simple non-sens. Ce dont il témoignait provenait évidemment de circonstances étranges méritant enquête, quand bien même cela n'avait que très peu à voir avec les conclusions invraisemblables qu'il en tirait, et je savais que cela représentait un enjeu considérable pour cet homme. Plus tard, je recevrais de lui des preuves matérielles qui placeraient l'affaire sur une base quelque peu différente, déroutante et bizarre. Je ne peux mieux faire que transcrire intégralement, aussi fidèlement qu'il me sera possible, la longue lettre par laquelle Eckley se présenta lui-même, et qui a été un tel virage décisif dans ma propre histoire intellectuelle. Elle n'est plus en ma possession, mais j'ai fermement en mémoire quasi chaque mot de son prodigieux message, et de nouveau j'affirme ma confiance dans l'état mental de celui qui l'a écrit. En voici le texte, un texte qui m'a rejoint dans son gribouillage en pâte de mouche, avec les tournures archaïques de quelqu'un qui, évidemment, ne s'était pas mêlé beaucoup au monde pendant sa paisible vie d'étude. De RFD 2, Tom's Head, Windham County, Vermont, le 5 mai 1928, à Albert N. Wiltmouth, Esquire, 118 Saltonstall Street, Arkham, Massachusetts. Cher monsieur, J'ai lu avec beaucoup d'intérêt dans le Brattleboro Reformer du 23 avril 1928 la réimpression de votre lettre sur les récents témoignages de corps étranges vus flottant dans nos rivières en crue de l'automne dernier, et de comment ils s'accordent si bien avec de curieuses légendes. Il est facile de comprendre comment un étranger peut assumer la position qui est la vôtre, et aussi pourquoi le Penrifter soutient votre point de vue. C'est l'attitude généralement adoptée par les personnes d'éducation à la fois dans et hors du Vermont. Et lors de ma vie étudiante, quand j'étais plus jeune, j'ai actuellement 57 ans, comme au début de mes propres études à partir des thèses de Davenport, qui m'a conduit à explorer quelques endroits des crêtes voisines, bien rarement visités. J'ai été mené à de telles études par ces vieux récits bizarres que j'ai fréquemment recueillis des plus vieux paysans, les plus ignorants souvent, même si maintenant j'aurais bien préféré ne rien entreprendre en ce sens. Je dois confirmer, avec toute la modestie qui convient, que ce sujet d'anthropologie et de folklore ne m'est d'aucune façon étranger. J'en ai été absorbé une bonne partie à l'université et suis familier de la plus grande part des autorités reconnues comme Tyler, Lubbock, Fraser, Quatre Fages, Murray, Osborne, Keith, Bull, G. Elliott Smith et ainsi de suite. Cela n'a rien de nouveau pour moi que ces récits d'espèces cachées soient aussi vieux que l'humanité. J'ai consulté et la reprise de vos lettres et celle de vos réfutateurs dans le Rutland Herald, et je crois savoir où cette controverse en est pour le présent. Ce que je désire vous dire maintenant, c'est que j'ai bien peur que vos adversaires soient plus près de la vérité que vous-même, quand bien même toute la raison semble pencher de votre côté. Ils en sont plus près qu'ils ne savent eux-mêmes, parce que bien sûr ils ne disposent que d'hypothèses théoriques et ne peuvent savoir ce que je sais. Si je savais aussi peu de l'affaire que ce qu'ils en savent eux-mêmes, je n'oserais pas défendre ce qu'ils croient. Je serais pleinement de votre côté. Comme vous le constatez, j'ai quelques difficultés à en venir à notre sujet, probablement parce que je crains réellement de l'aborder. Mais le point essentiel de l'affaire, c'est que je dispose de preuves attestant de ces choses monstrueuses vivant dans les bois et secrètes où plus personne ne se rend. Je n'ai vu aucune de ces choses flottant dans les rivières, comme d'autres en ont témoigné, mais j'ai vu des choses comme celles-ci, dans des circonstances que je crains de répéter. J'ai vu leurs empreintes, et dernièrement en ai constaté tout près de ma propre maison. J'habite le vieux domaine des Eckley, au sud de Townsend, sur le versant de la Montagne Noire, si près que je n'ose vous le dire. Et j'ai surpris des voix à certains endroits des bois tels que je ne saurais les décrire sur une feuille de papier. Dans un de ces endroits, je les percevais si bien que j'y ai emporté un phonographe, avec une membrane enregistreuse et un cylindre de cire, et je vais faire en sorte que vous puissiez prendre connaissance de l'enregistrement obtenu. Je l'ai fait écouter à quelques-uns des plus vieux d'ici, et l'une des voix les a littéralement paralysés, en raison de sa ressemblance à ce bourdonnement comme un essaim dans les forêts, mentionné par Davenport, dont leur grand-mère leur avait parlé et qu'elles avaient imité pour eux. Je sais ce que la plupart des gens pensent de quelqu'un qui dit entendre des voix, mais avant que vous en tiriez des conclusions, il vous faut écouter cet enregistrement et demander à quelques-uns des aînés de nos vallées ce qu'ils en pensent. Si vous pouvez l'expliquer normalement, tant mieux, mais il faudra mettre quelque chose là-dessous. Ex nihilo nihil fit, comme on dit. Maintenant, mon but en vous écrivant n'est pas d'entamer une discussion, juste de vous communiquer des informations dont je sais qu'un homme de votre capacité y trouvera profond intérêt. Notre échange restera privé. Publiquement, je suis de votre côté. Parce que certaines choses m'ont appris qu'il n'est pas bon que les gens en sachent trop sur ces questions. Mes propres études désormais sont uniquement privées, et il me déplairait de dire quoi que ce soit qui attira l'attention du public et l'inciterait à se rendre dans ces lieux que j'ai explorés. Il est exact
terriblement exact que des créatures non humaines nous surveillent en permanence, avec des espions parmi nous collectant pour elles des informations.
C'est d'un homme détruit, s'il est resté sain d'esprit, je pense qu'il l'était, qui a été un de ces espions que je tiens une grande partie de mes indices sur tout cela. Il a préféré dernièrement le suicide, mais j'ai des raisons de penser que d'autres ont pris sa place. Ces êtres viennent d'une autre planète, capables de vivre dans l'espace interstellaire et de le traverser grâce à ces ailes disgracieuses mais puissantes qui peuvent résister à l'éther, mais sont trop incommodes à diriger pour leur être d'une grande aide sur la Terre. Je vous en dirai plus sur cela plus tard, si vous ne me considérez pas comme insensé. Ils viennent ici pour extraire des métaux de ces mines qui s'enfoncent profondément sous nos crêtes, et je crois désormais savoir d'où précisément ils proviennent. Ils ne nous agresseront pas si nous les laissons dans leur solitude, mais personne ne peut dire ce qui arrivera si nous nous révélons trop curieux à leurs propos. Bien sûr, une bonne armée bien équipée pourrait nettoyer cette colonie de nos mines. C'est ce qui les effraie. Mais si cela se produisait, ils reviendraient en plus grand nombre de l'espace, en bien plus grand nombre. Ils pourraient facilement conquérir la Terre, mais ne l'ont pas tenté parce qu'ils n'en ont pas l'utilité. Ils préfèrent plutôt laisser les choses en l'état pour éviter les ennuis. Je pense qu'ils souhaitent se débarrasser de moi parce qu'ils savent ce que j'ai découvert. Il y a une grande pierre noire avec des hiéroglyphes inconnus, mi-effacés, que j'ai trouvée dans les bois de la montagne de la Ronde, versant est. Et depuis que je l'ai rapportée à la maison, tout est devenu différent. S'ils pensent que j'en devine trop, ils peuvent soit me tuer, soit m'emporter de la terre jusque là d'où ils viennent. Ils ont l'habitude d'emporter des hommes de savoir de temps en temps pour rester au courant de l'état des choses dans le monde terrestre. Cela m'amène à mon second objectif en m'adressant à vous, personnellement, pour vous inciter expressément à clore le présent débat plutôt que lui donner encore plus de publicité. On doit tenir les gens à l'écart de ces montagnes, et pour y parvenir, on ne doit pas éveiller plus avant leur curiosité. Dieu sait si le péril est grand de toute façon, avec ses promoteurs et hommes d'affaires écumant le Vermont, et y amenant des hordes d'estivants pour infester les endroits sauvages et couvrir nos montagnes de bungalows à pas cher. Je serais heureux que nous puissions échanger plus en profondeur, et vais tenter de vous faire parvenir par express cet enregistrement ainsi que la pierre noire. Elle est si usée que les photographies ne montrent pas grand-chose, si vous le voulez bien. Je dis « tenter » parce que je pense que ces créatures sont aptes à mettre le nez dans ce qui se passe par ici. Il y a un type nommé Brown, sournois et menaçant, qui a une ferme près du village et dont je pense qu'il est un de leurs espions. Petit à petit, ils essayent de me couper de notre monde parce que j'en sais trop sur leur propre monde. Ils ont un moyen incroyable de savoir ce que je fais. Peut-être ne recevrez-vous même pas cette lettre. Si les choses empirent, j'aurai à quitter ce pays et partir vivre avec mon fils à San Diego. Mais il n'est pas facile de renoncer à l'endroit où vous êtes né et où vit votre famille depuis 6 générations. De même, jamais je n'oserais vendre cette maison à personne, maintenant que ces créatures l'ont constamment sous leur attention. Je crois qu'elle souhaite reprendre la pierre noire et détruire l'enregistrement phonographique, mais je ne les laisserai pas faire tant qu'il me le sera possible. Mes chiens, 2 grands bergers allemands, les tiennent pour l'instant à distance. Elles ne sont pas encore si nombreuses et sur la terre elles sont maladroites. Comme je vous l'ai dit, leurs ailes ne leur sont pas de grande utilité pour de courts vols sur la terre. Je suis vraiment sur le point de déchiffrer cette pierre qui emmène sur des chemins terribles, et avec votre connaissance du folklore, vous me serez d'une grande aide pour trouver les éléments manquants. Je suppose que vous savez tout à propos de ces mythes effrayants anticipant l'arrivée de l'homme sur la terre, les cycles de Yog-Sothoth et de Cthulhu,
auquel fait référence le Necronomicon. J'ai pu accéder à une de ces copies autrefois, et sais que vous en conservez une dans la bibliothèque de votre université, verrouillée sous clé. Pour conclure, Monsieur Wilmoth, je pense que dans nos chemins d'études respectifs, nous pourrions être de grande aide l'un à l'autre. Je ne voudrais pas vous placer dans un quelconque péril, et je dois vous mettre en garde que la possession de la pierre et de l'enregistrement n'est pas une sécurité garantie. Mais je sais que vous en considérerez le risque à l'échelle de notre goût de connaissance. Je me rendrai à Newfane ou Brattleboro pour vous expédier ce que vous m'autoriserez à vous envoyer, parce qu'il est plus sûr de les expédier directement depuis leur bureau. Je dois vous avouer que je vis vraiment seul désormais et ne peux plus compter sur aucune aide. Personne ne reste ici depuis que ces êtres s'approchent de la maison la nuit et que les chiens aboient continuellement. Je suis heureux de n'avoir pas été trop impliqué dans cette affaire tant que ma femme était vivante, parce que cela l'aurait rendue folle. En espérant ne pas vous ennuyer à l'excès et que vous déciderez que nous resterons en contact plutôt que de jeter cette lettre au panier comme les élucubrations d'un fou. Bien respectueusement vôtre, Henry W. Eckley. Postscriptum, je fais réaliser quelques tirages supplémentaires de certaines photographies que j'ai prises, dont je pense qu'elles aideront à prouver un certain nombre de points ci-dessus évoqués. Les vieilles personnes pensent qu'elles sont monstrueusement véridiques. Je vous les enverrai très bientôt, si vous m'en témoignez l'intérêt. H.W.A.
Il me serait difficile de décrire mes sentiments après avoir lu cet étrange document pour la première fois. Selon toutes les règles ordinaires, j'aurais dû éclater de rire à ces extravagances autant qu'à ces théories pourtant bien moins folles qui avaient déjà provoqué mon hilarité. Mais quelque chose dans le ton de la lettre me la fit paradoxalement recevoir avec le plus grand sérieux. Non pas que j'aie cru un moment à cette espèce cachée venue des étoiles dont parlait mon correspondant, mais malgré ces graves doutes préliminaires, je fus poussé à me sentir bizarrement certain de son intelligence et de sa sincérité, et de sa confrontation à quelque phénomène original, et qu'il ne pouvait l'expliquer hors son propre imaginaire par le singulier et l'anormal. Cela ne pouvait être ce qu'il en croyait, je pensais, mais d'un autre côté, son enquête était forcément méritante. Mon correspondant semblait excité et alarmé à l'excès à propos de quelque chose. Il était difficile de penser qu'on ne puisse y trouver une autre cause. Tout y était si spécifique et logique, d'une certaine façon. Et après tout, son histoire collait de façon très confuse avec la plupart des vieux récits, y compris les plus anciennes légendes indiennes. Qu'il ait réellement surpris ces voix dérangeantes dans les montagnes et ait réellement trouvé la pierre noire dont il parlait était pleinement possible, malgré les inférences folles qu'il en faisait, inférences probablement dues à cet homme qui se proclamait un espion des êtres surnaturels et s'était suicidé ensuite. C'était facile d'en déduire que cet homme-là était parfaitement fou, mais probablement doué de cette propension à une perverse logique pour les autres, et le naïf Eckley, préparé à l'avance à de telles choses par ses études du folklore, avait marché dans ses fables. Et pareil pour les derniers points, il se dégageait de son impossibilité à conserver du personnel que les humbles et rustiques voisins d'Eckley étaient aussi convaincus que lui que sa maison était assiégée par de mystérieux êtres la nuit. Les chiens aboyaient pour de vrai, aussi. Et puis, la question de l'enregistrement phonographique, dont je ne pouvais croire qu'il l'ait obtenu de la façon dont il le disait. Cela devait signifier quelque chose, soit des bruits d'animaux ressemblant à s'y tromper à la voix humaine, soit la voix d'un être humain caché sortant la nuit et tombé à un stade pas beaucoup plus haut que les animaux. De là, mes pensées revinrent à la pierre noire et ses hiéroglyphes, et spéculèrent sur ce qu'on pouvait en tirer. Et quoi dire de ces photographies dont Eckley disait qu'il allait me les envoyer, et que les vieilles personnes avaient trouvées si convaincantes et terribles. Comme je relisais son écriture à pattes de mouche, Je ressentis comme jamais auparavant que mes opposants les plus crédules y auraient trouvé beaucoup plus d'arguments que ce que je leur avais concédé. Après tout, cela pouvait être quelque étrange famille de parias, peut-être génétiquement dégénérée et hantant ses crêtes désolées, sans avoir besoin de convoquer une espèce de monstre né des étoiles, comme le voulaient les légendes. Et s'il en était ainsi, la présence de ces corps bizarres dans les torrents en crue n'aurait pas été si improbable. Était-il trop présomptueux de supposer qu'à la fois les vieilles légendes et les récents témoignages avaient cette réalité comme soubassement? Mais quand bien même je m'ancrais sur ces doutes raisonnables, je me sentais honteux de ce que la lettre de Henry Eckley ait éveillé en moi une telle masse de bizarreries fantastiques. Ainsi me décidai-je à répondre à la lettre d'Eckley, adoptant le ton d'un intérêt amical et sollicitant de lui de nouveaux détails. Sa réponse me parvint presque par retour de courrier, et contenait, selon sa promesse, plusieurs tirages Kodak de scènes et d'objets illustrant ce qu'il avait à dire. Regardant ces images aussitôt que je les sortis de l'enveloppe, je ressentis une curieuse sensation d'effroi et de proximité des choses interdites. Parce qu'en dépit de leur caractère bien vague, elles avaient un pouvoir de suggestion damnable qui s'intensifiait par leur côté authentique, le lien optique avec ce qu'elles représentaient et le produit d'un acte de transmission impersonnelle sans préjugé, faillibilité ni mensonge. Plus je les regardais, plus je découvrais que la sérieuse estime que j'avais d'Eckley et de son histoire n'était pas sans fondement. Quelques-unes de ces images imposaient certainement l'idée qu'il se passait quelque chose dans les crêtes du Vermont, loin au-delà du rayon établi de notre connaissance et de nos croyances ordinaires. La pire de toutes, c'était une empreinte, une vue prise où le soleil brillait sur une tache de boue dans la lande déserte. Ce n'était pas une contrefaçon ou un bricolage, je le sus du premier regard. Parce que le parfait rendu et la précision des cailloux et des herbes dans le champ de vision donnaient une parfaite idée de l'échelle et ne laissaient aucune possibilité de double exposition, d'ailleurs d'exécution délicate. J'ai appelé ça « empreinte », mais il faudrait un terme séparé pour les empreintes de pied et les empreintes de griffes. Même maintenant, il m'est difficile de la décrire, sauf à dire que ça ressemblait hideusement à ce qu'aurait laissé une pince de crabe, et qu'on ne pouvait rien en déduire quant à sa direction. Ce n'était pas une empreinte très profonde ni juste fraîche, mais semblait à peu près de la taille d'un pied humain moyen. Depuis un coussinet central, des paires de pinces dentelées comme des scies se projetaient dans différentes directions. Pour quelle fonction déroutante, si bien sûr l'objet au complet était exclusivement un moyen de locomotion. Sur une autre photographie, prise à l'évidence avec un long temps de pause dans une obscurité très dense, on voyait une grotte dans les bois, dont un rocher d'une rondeur très régulière colmatait l'ouverture. Sur le sol nu devant celle-ci, on arrivait à discerner un dense réseau de traces curieuses et quand j'étudiais l'image en l'agrandissant, je fus à la fois sûr et gêné de constater que c'étaient les mêmes traces que celles détaillées dans la vue précédente. Une troisième photographie montrait un cercle de pierre levé à la manière des druides sur le sommet d'une crête sauvage. Autour du cercle cryptique, l'herbe était piétinée et écrasée, bien que je ne puisse discerner aucune empreinte, même avec la loupe. Un lieu éloigné à l'extrême, c'était évident par la véritable mer de montagnes inhabitées qui formait l'arrière-fond et se perdait au loin dans la brume de l'horizon. Mais si la plus perturbante de toutes les vues était celle de l'empreinte, la plus curieusement suggestive était celle de la grande pierre noire trouvée dans les bois de la ronde. Eckley l'avait photographiée sur sa propre table de travail, qu'on reconnaissait bien puisque je pouvais distinguer ses rangées de livres, et tout auprès un buste de Milton. La chose, d'aussi près qu'on pouvait le deviner, avait été placée verticalement sous l'appareil photographique et présentait une surface irrégulièrement courbée d'environ 30 cm sur 50. Mais dire quoi que ce soit de définitif à propos de cette surface ou sur la forme générale de la masse globale, cela défiait les pouvoirs du langage. Quels principes géométriques extravagants avaient guidé sa découpe ? Puisqu'artificiellement découpée, j'étais sûr qu'elle l'était, je ne pouvais même pas commencer à le deviner. Mais jamais auparavant je n'avais vu quelque chose qui me frappât aussi étrangement et immanquablement étranger à ce monde. Des hiéroglyphes à la surface, je ne pouvais en discerner que quelques-uns, mais ceux que je pus reconnaître me créèrent un autre choc. Bien sûr, ils pouvaient être apocryphes, parce que bien d'autres que moi avaient lu le monstrueux et abhorré Necronomicon de l'arabe fou Abdul al-Azred. Cela me fit néanmoins frissonner de reconnaître certains idéogrammes que l'étude m'avait appris à relier aux choses les plus blasphématoires et sanglantes qu'on chuchotait quant à ce qui avait pu avoir une demi-existence folle avant la Terre et les autres mondes définis dont le système solaire est conçu. Des 5 photographies restantes, 3 étaient prises dans des marais ou sur des crêtes et semblaient porter la trace d'une occupation malsaine et cachée. Une autre consistait en une étrange marque dans le sol très près de la maison d'Aclay, qu'il disait avoir photographiée à l'aube suivant une nuit où les chiens avaient aboyé de façon plus violente que d'habitude. Elle était plus que floue, et on aurait pu en tirer de conclusions certaines, mais elle semblait diaboliquement proche de l'autre trace ou empreinte de griffes photographiée sur la lande déserte. La dernière image était celle de la maison d'Aclay elle-même. Une maison blanche soignée de 2 étages et mansarde, d'environ 125 ans d'âge, avec une pelouse bien tenue et une allée bordée de pierres menant à un porche style régence, sculpté avec goût. Il y avait plusieurs énormes bergers allemands sur la pelouse, reposant près d'un homme au visage affable, avec une barbe grise taillée de près, que je supposais être Aclay lui-même, photographie qu'il avait prise seul, pouvait-on inférer du déclencheur qu'il tenait de sa main droite. Des photographies, je passais à la lettre, volumineuse et écrite serrée. Et pendant les 3 heures qui suivirent, je fus immergé dans un abîme d'indicible horreur. Ce dont Aclay m'avait donné seulement les grandes lignes auparavant, il m'en donnait maintenant le compte détaillé. Cela incluait de longues transcriptions des mots surpris la nuit dans les bois, de longs rapports sur les monstrueuses formes roses aperçues au crépuscule dans les fourrés et sur les crêtes, enfin un hallucinant récit cosmique s'appuyant sur tout un ensemble d'études profondes et variées, jusqu'au discours sans fin collecté auprès de ce fou qui se proclamait espion avant son suicide. Je me trouvais immergé dans des noms et des termes que j'avais croisés autrefois dans les plus hideuses relations. Yugot, le grand Cthulhu, Tsatogwa, Yog-Sothoth, Rlie, Nyarlathotep, Azathoth, Astur, Yann, Leng, le lac de Hali, Bet-Mora, le cygne jaune, Elmur Catulos, Bran, ou le Magnum Innominandum, et fut ramené en arrière à travers des éternités sans nom et les dimensions inconcevables des anciens mondes, d'être venu de l'espace que l'auteur fou du Necronomicon n'avait fait qu'envisager très vaguement. On y apprenait les abîmes de la vie primale et des flux qui en avaient découlé. Et finalement, sur un des mains se ruisselait d'un de ces flux, ce qui avait entraîné la destinée de notre propre terre. Mon cerveau tourbillonnait. J'avais essayé de trouver une explication rationnelle aux choses. Je commençais maintenant à croire aux merveilles les plus anormales et incroyables. Le cercle de l'évidence vitale était irrésolublement vaste et écrasant, et l'attitude distanciée et scientifique d'Aclay, une attitude qui se tenait aussi loin qu'imaginable des spéculations fanatiques, hystériques ou même simplement extravagantes, eut l'effet le plus considérable sur mes pensées et mon jugement. Lorsque je reposais près de moi la lettre effrayante, ces peurs qu'il en était venu à entretenir, je les comprenais
et j'étais prêt de mon côté à tout ce qui serait en mon pouvoir pour tenir les populations à l'écart de ces crêtes sauvages et hantées. Même aujourd'hui, alors que le temps en a affaibli l'impression et a remis en question ma propre expérience et mes horribles doutes, il y a des choses dans cette lettre d'éclat dont je ne ferai pas état, ni même n'oserai en poser les mots sur du papier. Je suis presque heureux que cette lettre, l'enregistrement et les photographies aient disparu maintenant, et j'aurais préféré, pour les raisons que je vais m'efforcer de rendre claires, que cette planète au-delà de Neptune n'ait pas été découverte. Une fois lue cette lettre, je mis un terme définitif à mon intervention publique au sujet des horreurs du Vermont. Les arguments de mes opposants restèrent sans réponse, ou bien je promis et remis à plus tard, et la controverse s'effaça progressivement dans l'oubli. Durant les mois de mai et juin, nous avons constamment correspondu, Éclat et moi-même, même si de temps en temps une lettre a pu disparaître, et qu'alors nous ayons à en reconstituer le fond et à mener à bien une considérable et laborieuse copie. Ce que nous essayions de faire, globalement, était de comparer nos notes et études à propos d'obscurs cas mythologiques et d'en tirer une corrélation claire entre les horreurs du Vermont et le corpus plus général des légendes primitives à l'échelle du monde. Par exemple, nous décidâmes que le morbide et diabolique Migo himalayen était une autre version du même cauchemar incarné. Bien sûr, existaient à son propos de vraisemblables conjectures zoologiques, au sujet desquelles j'échangeais avec le professeur Dexter dans ma propre université, mais à la demande impérative d'Eclay, sans mentionner à personne l'affaire qui nous y amenait. Si je parais désobéir à cette injonction aujourd'hui, c'est seulement parce que je crois à ce stade qu'une mise en garde à propos de ces crêtes reculées du Vermont et de ces sommets himalayens qui déterminent de plus en plus souvent les explorateurs à les escalader est plus favorable à la sécurité publique que le serait le simple silence. Un autre projet spécifique que nous voulions mener à son terme était le déchiffrement des hiéroglyphes sur cette infâme pierre noire. Un déchiffrement qui nous placerait en possession de secrets plus profonds et vertigineux que tout ce que l'homme avait connu jusqu'ici. Vers la fin du mois de juin me parvint l'enregistrement radiophonique, expédié par précaution depuis Brattleboro, puisque Eclay se refusait à croire à la confidentialité des envois depuis la branche nord de la ligne qui le desservait. Il commençait à ressentir les signes aggravés de cet espionnage, corrélés par la perte de quelques-unes de nos lettres, et me faisait régulièrement part des actes insidieux de ces personnes qu'il considérait comme les relais et les agents des êtres cachés. Parmi ceux qu'il suspectait le plus, un fermier revêche, Walter Brown, qui vivait seul dans une des vallées au bas des crêtes, là où les bois étaient les plus profonds, et qu'on voyait souvent traîner au coin de rue à Brattleboro, Bellows Falls, Newfane ou South Londonderry, de la façon la plus inexplicable et apparemment sans motif. Il était convaincu que la voix de Brown faisait partie de celle qu'il avait surprise en de certaines occasions, dans une conversation effrayante. Et il avait une fois trouvé une de ses empreintes, de griffes plutôt que de pieds, tout près de la ferme de Brown, et c'était de très mauvais augure. Elle était curieusement voisine de quelques-unes des propres empreintes de Brown, des empreintes qui leur faisaient face. C'est pourquoi, insistait-il, il m'avait expédié l'enregistrement depuis Brattleboro et s'y était rendu avec sa Ford tout au long des petites routes solitaires du Vermont. Il avouait dans la note qui l'accompagnait qu'il commençait à avoir peur sur ses routes, et qu'il n'osait même plus se rendre à Townsend maintenant pour son ravitaillement, sinon dans le grand plein jour. Ce n'était pas bon, répétait-il chaque fois, d'en savoir trop sur ces crêtes silencieuses et problématiques, à moins d'en rester très loin. Il souhaitait partir en Californie au plus vite et vivre auprès de son fils, même si c'était difficile pour lui de quitter le lieu qui représentait toute sa mémoire et celle de ses ancêtres.
Avant de tester l'enregistrement sur une machine compatible que je me procurais auprès de l'administration de l'université, je lus avec attention tout ce qui le concernait dans les différentes lettres d'Eclay. Cet enregistrement, disait-il, il l'avait réalisé vers 1 heure du matin, le 1er mai 1915, près de l'ouverture fermée d'une grotte, là où les pentes boisées versant ouest de la montagne noire tombent dans les marais. Un lieu qui a toujours été réputé pour ses voix étranges, et c'est pour cela qu'il avait apporté le phonographe, la membrane enregistreuse et un cylindre en l'attente de résultats. Un précédent incident lui avait appris que la lune de mai, la hideuse nuit du sabbat des légendes européennes souterraines, serait plus fertile que n'importe quel autre moment, et il n'avait pas été déçu. Il est à noter cependant qu'il n'entendit jamais à nouveau des voix dans ce lieu particulier. À la différence de la plupart des voix surprises en forêt, la substance de l'enregistrement était quasi rituelle et incluait une voix humaine bien distincte qu'Eclay n'avait jamais été capable d'identifier. Ce n'était pas Brown, mais celle d'un homme de plus haute culture. La seconde voix, cependant, était la clé de l'ensemble. C'était ce maudit chuchotement bourdonnant qui n'avait rien d'humain en dépit des mots humains qui s'y formaient en bonne grammaire anglaise et accentuation académique. Le phonographe et la membrane enregistreuse n'avaient pas fonctionné uniformément bien, et c'était une grande déception dans les conditions de ce rituel surpris, mais comme lointain et étouffé. Et la partie enregistrée avec les mots était très fragmentaire. Eclay m'avait fourni une transcription de ce qu'il croyait comprendre des mots prononcés, et j'y regardais une nouvelle fois tandis que je préparais la machine pour les reproduire. Le texte était sombrement mystérieux, plutôt qu'ouvertement horrible, bien que la connaissance de son origine et de la façon dont il a été collecté lui associe toute l'horreur dont n'importe lequel de ces mots est doué lui aussi. Je le transcris ici intégralement tel que je m'en souviens, et j'ai l'absolue confiance de le connaître par cœur exactement, non pas seulement sa transcription lue, mais de l'avoir répété et rejoué sur le phonographe encore et encore. Ce n'est pas quelque chose qui pouvait s'oublier si aisément.
Jusqu'au puits de la nuit, nous prierons toujours l'immense Cthulhu de Tsapogwa, ainsi que celui qu'on ne doit pas nommer. Toujours nous les prierons, et que l'abondance soit aux boucs noirs de ces forêts. Hiya, Shub-Niggurath, toi, bouc à la jeunesse éternelle. Le temps est venu de servir le seigneur de ces bois. Sept puis neuf descendant les marches d'Onyx rendent à lui des abîmes à Zatoth, lui de qui tu tiens toutes les merveilles apprises. Sur les ailes de la nuit au-delà de l'espace, au-delà des de qui Yugoth est l'enfant le plus jeune, roulant seul dans le noir éther.
Va parmi les hommes et trouve les chemins et que lui dans les abîmes les connaisse. Là, Anialtotep, messager puissant, toutes choses doivent être dites et il se construira à la semblance des hommes. porte ramasques de cire et robes qui le cachent. Il descendra du monde aux sept soleils pour accomplir.
Narlathotep, puissant messager, celui qui apporte la joie sauvage de Yugoth à travers le vide, père des millions de ceux qui ont la faveur, ô Stalker.
Tels étaient les mots que j'entendis quand je lançai le phonographe. C'est avec un fond de peur primitive et de répugnance que je soulevai le bras et écoutai le crissement préliminaire de la pointe de saphir, et je fus heureux que les premiers mots à peine audibles et fragmentaires fussent ceux d'une voix humaine, une voix douce et cultivée avec une prononciation qui semblait venir de Boston, mais certainement pas d'un natif du Vermont. En me concentrant sur cette restitution terriblement affaiblie, je constatais que les mots étaient identiques à la transcription qu'Eclay en avait soigneusement établie. Et elle chantait avec son doux accent de Boston.
« Ya Shub-Niggurath, toi le bouc noir des forêts à la jeunesse éternelle. »
Et c'est alors que j'entendis l'autre voix. Et même maintenant, je frissonne rétrospectivement à me remémorer comment j'en tremblais, même préparé comme je l'étais par les récits d'Eclay. Ceux à qui j'avais décrit entre-temps l'enregistrement le déclarèrent n'être qu'une pauvre imposture, ou n'y trouver qu'une folie. Que n'ont-ils pu entendre la chose maudite elle-même, ou lire les pages empilées des lettres d'Eclay, et surtout cette terrible et encyclopédique deuxième de ces lettres? Je crois qu'ils auraient pensé autrement. Et c'est vraiment une pitié considérable, après tout, que je n'ai osé désobéir à Eclay et faire entendre cet enregistrement à d'autres. Une pitié considérable aussi, que toutes ces lettres soient perdues. Cette voix était chose monstrueuse. C'est la première impression que j'eus de ces sons entendus, avec ma connaissance du contexte et des circonstances. Elle suivait souplement la voix humaine dans ses réponses rituelles, mais dans mon imagination, c'était un écho morbide se frayant chemin à travers d'inimaginables abysses jusqu'à d'inimaginables enfers lointains. Cela fait plus de 2 ans maintenant que je fus dépossédé du cylindre de cire blasphématoire. Et maintenant, à chaque instant, je peux encore entendre ce bourdonnement faible, menaçant, comme il m'atteignit cette première fois. Mais j'ai beau avoir cette voix toujours dans les oreilles, je ne suis pas encore capable de l'analyser assez précisément pour une description par les mots. C'était comme un essaim de quelque détestable et gigantesque insecte qu'on aurait reformé dans le langage articulé d'une espèce étrangère, et je suis parfaitement certain que les organes qui le produisaient n'avaient aucune ressemblance avec l'organe vocal humain, ni avec celui d'aucun mammifère. C'était des singularités de timbre, auteurs et harmoniques qui plaçaient ce phénomène complètement hors de la sphère de l'humanité ou de la vie terrestre. Son arrivée soudaine me mit dans une telle stupeur que j'entendis le reste de l'enregistrement à travers une sorte d'hébétement abstrait. Quand vint le plus long passage du bourdonnement, commença l'intensification aiguë de ce sentiment d'infinité blasphématoire qui m'avait frappé dans le premier court passage. À la fin, l'enregistrement cessait abruptement, laissant entendre une réplique étonnamment claire de la voix humaine à l'accent de Boston. Et je restai dans une immobilité stupide longtemps après que le phonographe se fût automatiquement arrêté. Je n'ai pas besoin de dire que, cet enregistrement choquant, je me le répétais bien des fois et en tentais une analyse exhaustive et commentée que je comparais avec les notes d'Eclay. Ce serait à la fois inutile et perturbant de répéter ici tout ce que nous en conclûmes.
qu'on sache seulement que nous nous accordâmes à croire que nous avions sauvegardé un indice à la source d'une des plus répulsives et primordiales croyances des plus vieilles et cryptiques religions de l'humanité. Il nous semblait clair que s'était nouée une alliance à la fois ancienne et élaborée entre les créatures cachées de l'espace et certains membres de l'espèce humaine. De l'étendue de cette alliance et de son état aujourd'hui comparé à certains de ses états dans les temps anciens, nous n'avions aucun moyen de les deviner. Mais au mieux pouvions-nous dire qu'il y avait là place à une spéculation horrible et sans limite. Il semblait y avoir un lien immémorial et affreux avec plusieurs étapes définies entre l'homme et l'infinité sans nom. Les blasphèmes qui étaient apparus sur Terre provenaient, nous le comprenions, de la noire planète Yugot, à l'extrémité du système solaire. Mais elle était elle-même le poste avancé et peuplée d'une effrayante espèce intersidérale, dont la source ultime devait s'ancrer loin au-delà même du continuum d'espace-temps d'Einstein ou du plus étendu de ce que nous savons du cosmos. Nous discutions aussi du meilleur moyen de faire parvenir la pierre noire à Arkham, et Clay déconseillant absolument que je lui rende visite sur la scène de ses études cauchemardesques. Pour une raison ou une autre, Clay avait peur de confier la chose à un moyen ordinaire ou disponible d'expédition commerciale. Son idée finale fut de l'emporter à travers le pays jusqu'à Billows Falls et de l'expédier par le Boston and Maine via Keene, Winchendon et Fitchburg, même si cela supposait qu'il conduisit dans ses routes solitaires à travers crêtes et forêts plutôt que par la route principale de Brattleboro. Il dit qu'il avait remarqué un homme en poste près du bureau des expéditions express de Brattleboro quand il m'avait envoyé le cylindre avec l'enregistrement, et que ses façons et son expression avaient été loin de le rassurer. Cet homme lui avait semblé être hâtivement anxieux de parler avec les employés et avait pris le train par lequel l'enregistrement avait été envoyé. Clay avouait qu'il ne s'était pas senti rassuré tant qu'il n'eut pas appris de moi la bonne réception de son colis. Vers ce moment, la deuxième semaine de juillet, une autre lettre de moi fut égarée, et j'attendais avec anxiété des nouvelles d'Eckley. Nous convînmes après cela que je ne lui écrirais plus à Townsend, mais poste restant au General Delivery de Brattleboro, quitte à ce qu'il fasse de plus fréquents allers-retours, soit avec sa voiture, soit par la ligne de bus qui avait récemment repris le service passager de la ligne de train arriérée. Je voyais bien qu'il devenait de plus en plus apeuré, et qu'il me donnait de plus en plus de détails sur les aboiements maintenant incessants de ses chiens par les nuits sans lune et des empreintes fraîches qu'il trouvait parfois sur la route ou dans la glaise à l'arrière de son terrain quand le matin arrivait. Il me parla une fois d'une véritable couche d'empreintes faisant face à une ligne tout aussi épaisse et résolue d'empreintes de ses chiens et m'envoya une image détestablement dérangeante de son Kodak pour m'en fournir la preuve. C'était après une nuit pendant laquelle ses chiens étaient devenus fous à force d'aboyer et de hurler. Le matin du mercredi 18 juillet, je reçus un télégramme de Bellows Falls dans lequel Clay disait m'avoir expédié la pierre noire par le train numéro 5508 de la Boston and Maine, qui partait de Bellows Falls à 12h15, horaire de l'Est, et qui serait réceptionné à la gare de Boston Nord à 16h12. Cela permettrait, je calculais, qu'elle arrive à Arkham au plus tard à midi, en fonction de quoi je restais tout ce jeudi matin à l'attendre. Mais midi arriva sans qu'on me prévienne, et quand je téléphonais au bureau des marchandises, on m'informa qu'aucun colis n'était arrivé à mon intention. Ma décision suivante, alors que je commençais sérieusement à m'alarmer, fut de solliciter un appel longue distance pour le bureau des marchandises de Boston Nord. Je fus à peine surpris d'apprendre que mon colis ne leur était pas parvenu. Le train numéro 5508 était arrivé avec seulement 35 minutes de retard le jour précédent, mais ne contenait pas de colis qui me soit destiné. L'employé me promit cependant d'effectuer une recherche, et je terminai la soirée en informant Clay de la situation par courrier express. Le formulaire d'enquête me parvint dès le lendemain après-midi, en provenance du bureau de Boston, l'agent ayant téléphoné aussitôt que je lui eus fait part de ma requête. Il s'avéra que le contrôleur en charge du train numéro 5508 s'était aussitôt souvenu d'un incident qui semblait n'avoir que peu de rapport avec ma réclamation. Une dispute avec un homme à la très curieuse voix, maigre et roux, à l'allure paysanne, quand le train attendait à Keene, New Hampshire, un peu après 13 heures, horaire de l'Est. Cet homme, disait-il, était considérablement énervé à propos d'une lourde malle qu'il revendiquait comme lui appartenant et qui nulle part n'avait été mentionnée sur les registres de la compagnie. Il leur avait donné comme nom Stanley Adams et avait une telle voix anormalement bourdonnante et sifflante que l'employé avait peine à le comprendre. L'employé ne pouvait se remémorer comment la conversation s'était terminée, mais se rappelait avoir eu l'impression de se réveiller tout juste quand le train se fut ébranlé. L'agent de Boston ajoutait que ce jeune contrôleur était un homme d'une confiance et d'une véracité indubitables, de longtemps dans la compagnie et avec les meilleurs antécédents. Le soir même, je me rendis à Boston pour avoir un entretien avec le contrôleur en personne, ayant obtenu de la compagnie son nom et son adresse. C'était un garçon franc et avenant, mais je constatais qu'il ne pouvait rien ajouter à son premier rapport. Bizarrement, il était à peine sûr qu'il pourrait même reconnaître son étrange solliciteur s'il se présentait de nouveau. Certain qu'il n'avait plus rien à me dire, je revins à Arkham et m'assis dès le matin pour expédier des lettres à Eckley, à la compagnie ferroviaire ainsi qu'au commissariat de police et au chef de garde Keene. J'avais l'intuition que l'homme à l'étrange voix, qui avait si bizarrement affecté le contrôleur, devait être le pivot de cette sinistre affaire, et espérais que les employés et les mains courantes télégraphiques nous renseigneraient sur lui et sur la manière dont il s'était pris pour provoquer cette dispute, quand et pourquoi il l'avait fait. Je dois admettre cependant que mes demandes ne menèrent à aucun résultat. L'homme à la voix bizarre avait bien sûr été remarqué à proximité de la gare de Keene au début de l'après-midi de ce 18 juillet, et un des traînards du quai l'associait vaguement à une lourde boîte qui l'emportait. Mais il était inconnu de tous et n'avait jamais été vu ni avant ni depuis lors. Il ne s'était pas rendu au bureau du télégraphe, ni n'avait reçu de message, autant qu'on pouvait l'apprendre, et aucun message qui puisse être considéré comme ayant rapport à la présence de la pierre noire sur le numéro 5508 n'était parvenu à leur guichet pour personne. Eckley, bien entendu, s'était joint à moi pour conduire cette enquête, et s'était même rendu personnellement à Keene pour interroger les gens à proximité de la gare. Mais son attitude à l'égard de cette affaire fut plus fataliste encore que la mienne. Il sembla considérer la perte du colis comme l'inévitable avertissement d'une exécution solennelle et menaçante, et n'eut jamais l'espoir de le retrouver. Il parla de l'indubitable puissance hypnotique et télépathique des créatures et de leurs agents, et dans une de ses lettres suivantes prétendit qu'il ne croyait pas que la pierre fût restée plus longtemps sur cette terre. Pour ma part, j'étais réellement enragé, tant j'avais pensé disposer enfin d'une chance d'apprendre certaines de ces choses profondes et étonnantes dans ces hiéroglyphes anciens et arasés. Et j'aurais classé amèrement l'affaire dans mon esprit si les lettres suivantes d'Eckley n'avaient pas amené le terrible problème des montagnes à une nouvelle phase qui requit toute mon attention. Les choses inconnues, m'écrivait Eckley dans une écriture tremblante à en faire pitié, avaient commencé à se refermer sur lui avec un nouveau degré de détermination. L'aboiement nocturne des chiens lorsque la lune était faible ou absente devenait hideux, et il y avait eu des tentatives de l'attaquer sur une des routes désertes en plein jour. Le 2 août, alors qu'il roulait vers le village, Il était tombé sur un tronc d'arbre renversé sur la route là où elle traverse un bois épais. Et les aboiements sauvages des deux grands chiens qu'il avait pris avec lui indiquaient trop bien que ces choses devaient se cacher tout auprès. Ce qui serait arrivé si les chiens n'avaient pas été avec lui, il n'osait pas y penser. Mais il ne partit plus jamais sans au moins deux de sa puissante équipe canine de confiance. D'autres incidents étaient survenus les 5 et 6 août. Un jet de pierre sur sa voiture la première fois, et les aboiements des chiens révélant les présences inconnues dans les bois l'autre fois. Le 15 août, je reçus une lettre affolée qui m'effraya grandement et me fit souhaiter qu'Eclay ait mis de côté sa réticence de solitaire et en appelle à l'aide de la loi. Des événements graves s'étaient produits dans la nuit du 12 au 13 août. Des balles tirées contre sa maison et 3 des 12 grands chiens trouvés tués au matin. Il y avait des myriades d'empreintes de griffes sur la route, avec l'empreinte humaine de Walter Brown parmi elles. Eclay avait tenté de téléphoner à Brattleboro pour se procurer d'autres chiens, mais la communication avait été coupée avant qu'il ait une chance de s'expliquer. Un peu plus tard, il partit pour Brattleboro en voiture et apprit que la principale ligne téléphonique avait été proprement coupée à l'endroit où elle traversait les crêtes inhabitées au nord de Newfane. Mais il revint chez lui avec 4 nouveaux chiens, plusieurs boîtes de munitions pour son fusil à répétition pour gros gibier. Il avait écrit la lettre directement au bureau de poste de Brattleboro, et elle me parvint sans délai. Mon attitude scientifique envers l'affaire, à ce stade, glissait vers une alarme beaucoup plus personnelle. J'étais effrayé pour Eclay dans sa maison éloignée et solitaire, et aussi un peu effrayé pour moi-même, maintenant que mon lien avec l'étrange problème des montagnes était établi. La chose ainsi s'étendait. Est-ce qu'elle voulait m'engluer et m'engloutir? En réponse à sa lettre, je le pressai d'appeler à l'aide et suggérai que je le ferais moi-même s'il ne le faisait pas. Je parlais de venir en personne dans le Vermont en dépit de ses souhaits et de l'aider à expliquer sa situation aux autorités concernées. Cependant, par retour, je reçus le télégramme suivant, expédié depuis Bellows Falls. « Apprécie votre position, mais rien possible. Rien entreprendre de votre côté, sinon peut se retourner sur les deux. Explication suit. Henry Eclay. » Mais le conflit s'aggravait. Alors que j'avais répondu au télégramme, je reçus un mot tremblant d'Eclay avec la nouvelle étonnante que non seulement il n'avait jamais expédié de télégramme, mais qu'il n'avait pas reçu de lettre de moi, dont ce télégramme était la réponse évidente. Une rapide enquête de sa part à Bellows Falls nous révéla que le message avait été déposé par un étrange homme aux cheveux roux, avec une curieuse voix épaisse et bourdonnante, sans qu'Eclay puisse apprendre rien de plus. L'employé lui montra le texte original rédigé au crayon par l'expéditeur, mais la calligraphie en était vraiment inhabituelle. À noter que la signature comportait une faute. A-K-E-L-Y, sans le second E. Comment ne pas en tirer certaines conjectures? En dépit de la crise évidente, il ne cessa plus d'en élaborer. Il me parla de la mort d'autres chiens, de nouveaux achats pour les remplacer, et de l'échange de coups de feu qui était devenu une habitude à chaque nuit sans lune. À nouveau, parmi les empreintes de griffes qu'il trouvait régulièrement sur la route ou à l'arrière de sa ferme, se mêlaient les empreintes de Brown et celles au moins d'un ou deux pieds humains. Cela devenait, Eclay l'admettait, une vraie sale affaire. Et avant peu, il aurait à vivre en Californie avec son fils, qu'il puisse vendre ou non sa maison. Mais ce n'était pas facile de quitter le seul lieu qu'il pouvait considérer comme son foyer. Il devait essayer de faire durer les choses encore un peu. Peut-être pourrait-il tenir à distance les intrus, surtout s'il renonçait ouvertement à toute tentative ultérieure de pénétrer leurs secrets. Répondant à l'instant à Eclay, je lui renouvelai ma proposition d'aide, parlai à nouveau de lui rendre visite et de convaincre les autorités de sa situation d'extrême péril. Dans sa réponse, il semblait moins opposé à ce plan que par le passé, mais disait qu'il voulait essayer de tenir un peu plus longtemps, assez longtemps pour mettre ses affaires en ordre et se familiariser avec l'idée de quitter un lieu de naissance maladivement chéri. Les gens voyaient avec désapprobation ses études et hypothèses, et ce serait mieux de s'éclipser tranquillement sans mettre le voisinage en émoi ou créer un doute généralisé sur sa propre santé mentale. Il en avait fait assez, cela il l'admettait, mais il voulait faire une sortie honorable, s'il le pouvait. Je reçus cette nouvelle lettre le 28 août, et lui envoyai en retour une réponse aussi encourageante que possible. Encouragements qui firent leur effet, parce que Eckley témoignait de moins de peur quand il me remercia de ma lettre. Il n'était pas optimiste pour autant, et disait croire que c'était seulement la période de pleine lune qui tenait les créatures à l'écart. Il espérait qu'il n'y aurait pas de nuit trop densément nuageuse, et commençait à envisager de s'établir à Brattleboro quand la lune diminuerait. À nouveau, je l'y encourageais par lettre, mais le 5 septembre me parvinrent des nouvelles qui, à l'évidence, prouvaient que nos lettres s'étaient croisées. Et à celle-ci, il me fut impossible de lui donner quelque espoir en retour. En raison de leur importance, il me semble que je fais mieux de les transcrire intégralement, du mieux que peut ma mémoire de ces écrits apeurés. Cela commençait en substance ainsi.
Lundi, cher Wilmarth.
Un post-scriptum plutôt décourageant à ma dernière lettre. La dernière nuit était très nuageuse, même sans pluie, et pas un brin de lune qui puisse passer au travers. Les choses sont allées vraiment mal, et je crois que la fin est proche, en dépit de tout ce que nous avons espéré. Après minuit, quelque chose a atterri sur le toit de la maison, et les chiens se sont tous précipités pour voir ce que c'était. Je pouvais les entendre bondir et sauter alentour, et l'un d'eux a même pu monter sur le toit en sautant sur la galerie. Il y a eu alors un terrible combat là au-dessus, et j'ai entendu cet effrayant bourdonnement, tel que je ne l'oublierai jamais. Puis une odeur épouvantable. Au même moment, des balles traversèrent la fenêtre et me manquèrent de peu. Je crois que la ligne principale des êtres de la montagne a pu se rapprocher de la maison pendant que les chiens s'étaient répartis sur le pourtour du toit. Ce qui s'est passé là au-dessus, je ne le sais pas encore. J'ai peur que les créatures apprennent à mieux manœuvrer avec leurs ailes. J'ai éteint les lumières et me suis servi des fenêtres comme poste de tir. J'ai arrosé tout autour de la maison, mon fusil orienté juste assez haut pour ne pas atteindre un de mes chiens. Ça a semblé clore l'affaire. Au matin, j'ai constaté qu'il y avait de grandes flaques de sang dans la cour, à côté de flaques d'une matière verte épaisse qui a la pire odeur que j'ai jamais sentie. Je suis monté sur le toit et ai trouvé d'autres restes de cette matière verte. 5 des chiens ont été tués. J'ai peur d'en avoir tué un en visant trop bas, parce qu'il a été atteint par l'arrière. Là, je répare les volets que les tirs ont brisés, et je retourne à Brattleboro pour d'autres chiens. Je crois que le type du chenil me prend pour un fou. Je vous réécris plus tard. J'espère être prêt à déménager dans une semaine ou deux, même si ça me tue presque d'y penser. À la hâte, Eckley. Mais ce ne fut pas la seule lettre d'Eckley à se croiser avec les miennes. Le matin suivant, le 6 septembre, une autre me parvint. Cette fois, un gribouillage affolé qui me déboussola complètement et me rendit incapable de dire quoi que ce soit sur ce qu'il y avait à faire. À nouveau, je ne peux mieux faire que copier le texte aussi précisément que ma mémoire me le permet.
Mardi, les nuages ne s'en vont pas, alors pas de lune toujours, et de toute façon sur son déclin. J'ai allumé les lumières tout autour de la maison et installé un projecteur, mais je crains qu'ils ne coupent la ligne dès qu'ils s'en apercevront. Je crois que je deviens fou. Peut-être que tout ce que je vous ai écrit est un rêve ou de la folie. Les choses allaient mal auparavant, mais désormais, c'est au-delà des gonds. Ils m'ont parlé la nuit dernière. parlé dans ce maudit bourdonnement et dit des choses que je n'ose pas vous répéter. Je les entendais parfaitement malgré l'aboiement des chiens, et lorsqu'à un moment ils les repoussèrent, une voix humaine les aida. Restez hors de tout ceci, Wilmoth. C'est encore pire que ce que vous ou moi n'ayons jamais imaginé. Ils ne veulent pas me laisser partir en Californie désormais. Ils veulent m'attraper vivant, ou ce que théoriquement et mentalement on dit vivre, et m'emporter non pas seulement à Yougoth, mais au-delà, loin en dehors de la galaxie et peut-être hors des dernières courbures de l'espace. Je leur ai répondu que je ne voulais pas obéir à leurs ordres, mais de la façon dont ils se proposent de s'emparer de moi, j'ai peur que ça ne serve à rien. Ma maison est si à l'écart que d'ici peu, ils pourront venir de jour comme de nuit. 6 chiens de plus tués, et j'ai senti leur présence tout au long des bois qui longent la route quand je suis allé à Brattleboro. Ce fut une erreur de ma part de vous envoyer cet enregistrement et la pierre noire. Ce serait mieux de briser le cylindre avant qu'il soit trop tard. Je vous écrirai à nouveau une ligne demain, si je suis encore vivant. Je voudrais pouvoir rassembler mes livres et quelques affaires, les emporter à Brattleboro et m'installer ici. Je m'en irais sans rien emporter si je pouvais, mais quelque chose dans mon esprit me retient. Je peux repartir à Brattleboro, où j'espère être en sécurité, et je m'y sens autant prisonnier qu'ici, à la maison. Et je crois savoir que je ne pourrai aller loin même si je laisse tout tomber et essaye. C'est horrible. Ne vous mêlez pas de ça. Votre est Clay.
Je ne pus réussir à dormir de la nuit après avoir reçu cette terrible lettre et fus complètement déconcerté sur ce qui restait à Clay de santé mentale. La substance de sa lettre était parfaitement folle, même si la manière de s'exprimer, au regard de tout ce qui s'était passé avant, avait un pouvoir de farouche conviction. Je ne tentais pas de lui répondre, pensant qu'il était mieux d'attendre qu'Eckley ait le temps de répondre à ma lettre précédente. Cette réponse me parvint effectivement le jour suivant, bien que les faits et nouvelles qu'elle évoque laissent dans l'ombre certains des points établis dans la lettre à laquelle celle-ci était censée répondre. Voici ce dont je me souviens du texte, tremblant et mi-effacé par le buvard, comme si rédigé dans une hâte désespérée.
« Mercredi, W. Votre lettre arrive, plus temps de discuter de tout cela. Suis pleinement résigné. Miracle ait eu assez de pouvoir et de volonté pour les chasser. » Je peux plus m'en tirer même si je voulais tout leur laisser fuir. Ils mourront. M'ont fait passer une lettre hier. Le facteur de la RFD me l'a déposée alors que j'étais à Brattleboro. Oblitéré et timbré de Bellows Falls. Me disent ce qu'ils veulent faire de moi. Pas possible de répéter. Prenez garde à vous aussi. Briser l'enregistrement. Nuit couverte nuages et pas de lune. Aimerais oser demander de l'aide, cela renforcerait ma volonté, mais quiconque oserait venir me traiterait de fou, à moins que je puisse montrer preuve. Peut pas demander quiconque de venir pour aucune raison du tout. Suis complètement hors contact tous ceux qui fréquentaient des années. Mais vous ai pas dit le pire, Wilmoth. Asseyez-vous pour lire ça, sinon vous allez recevoir un coup. Je dis le vrai pourtant. Voilà, c'est ça. J'ai vu et touché une des choses. Une partie de l'une de ces choses. Dieu, mon ami, c'est affreux. Elle était morte, bien sûr. Un des chiens l'avait attrapée et je l'ai trouvée près de leur niche ce matin. J'ai essayé de la garder dans une caisse en bois pour convaincre les gens de tout ça. Mais ça s'est tout évaporé en quelques heures. Rien qui reste. Vous vous rappelez ? Ces choses sur les rivières, on les a vues que le premier matin après l'inondation. Et voici le pire. J'ai essayé de la photographier pour vous, mais quand j'ai développé le film, il n'y avait rien du tout, excepté la caisse. De quoi sont faites ces choses? Je l'ai vue et touchée, et elles laissent leurs empreintes. C'est sûrement fait d'une matière, mais de quelle sorte de matière? Ah, un grand crabe avec tout un tas d'anneaux de chair ou nœuds d'un truc épais et rugueux couvert d'antennes là où serait la tête d'un homme. Ce jus vert épais, c'est leur sang. Et il y en a de plus en plus sur Terre à chaque minute. Walter Brown a disparu. A pas été vu traîner à aucun de ces coins de rue habituels dans les villages là-autour. J'ai dû me le faire avec un de mes coups de fusil. Même si les créatures semblent chaque fois emporter leurs morts et leurs blessés. Je suis allé à la ville cet après-midi sans aucun problème. Mais peur qu'ils commencent à se retenir parce qu'ils sont sûrs de m'avoir, j'écris ça de la poste de Brattleboro. C'est peut-être un au revoir. S'il en est ainsi, écrire à mon fils George Goodnow Eckley, 176 Pleasant Street, San Diego, Californie. Mais ne venez pas ici. Écrire à mon fils si vous n'avez pas de mes nouvelles dans une semaine et surveiller les nouvelles dans les journaux. Je vais jouer mes deux dernières cartes maintenant si j'ai assez de volonté pour tenir le coup. D'abord, essayer des gaz empoisonnés sur les choses. J'ai eu les bons produits chimiques et j'ai des masques pour moi et les chiens. Si ça ne marche pas, prévenir le shérif. Ils peuvent m'enfermer à l'asile s'ils veulent. Ce sera encore mieux que ce que les autres créatures veulent faire. Peut-être je peux leur montrer les empreintes autour de la maison. Elles sont peu marquées, mais j'en trouve chaque matin. Je suppose que la police dira que je les ai fabriquées d'une manière ou d'une autre. Ils pensent tous que je suis un type bizarre. Je peux essayer de demander à un policier de passer la nuit ici et voir par lui-même. Mais c'est un coup à ce que les créatures l'apprennent et ne se montrent pas cette nuit-là. Ils me coupent la ligne chaque fois que j'essaie de téléphoner la nuit. Les réparateurs trouvent ça vraiment bizarre et peuvent témoigner pour moi s'ils ne se mettent pas à imaginer que je la coupe moi-même. Je n'ai même pas tenté de leur demander de réparer depuis une bonne semaine maintenant. Je pourrais demander à quelques gens du coin de témoigner de la réalité des horreurs. Mais tout le monde rit de ce qu'ils disent. Et n'importe comment, ils évitent ma maison depuis si longtemps qu'ils ne savent aucun des nouveaux événements. Vous n'obtiendrez pas d'un de ces paysans de base d'approcher à 1 kilomètre de chez moi, ni par amour pour l'argent. Le facteur entend ce qu'ils disent et se moque de moi avec ça. Dieu, si j'osais seulement lui dire comment tout cela est réel. Je crois que je vais essayer de lui faire remarquer les empreintes, mais il vient dans l'après-midi et d'habitude elles ont disparu à ce moment-là. Si j'en garde une en mettant dessus un couvercle ou un carton, il pensera sûrement que c'est un faux ou une plaisanterie. Je voudrais bien n'avoir pas vécu ainsi en ermite, que les gens ne m'aient pas laissé seul comme ils l'ont fait. Je n'ai jamais osé leur montrer la pierre noire ou les images Kodak, ni écouter l'enregistrement, sauf à ces gens ignorants. Les autres auraient dit que j'avais fabriqué tous les trucs et n'auraient fait qu'en rire. Mais je peux encore essayer de montrer les photos. On voit ces empreintes de griffes clairement. Même si les choses elles-mêmes, on n'arrive pas à les photographier. Quelle misère que personne d'autre n'ait vu cette chose ce matin, avant qu'elle soit réduite à rien. Je ne sais pas les précautions à prendre. Après ce que j'ai traversé, l'asile des fous est une aussi bonne place que les autres. Les toubibs pourront m'aider à sortir mon esprit de cette maison, et c'est peut-être cela qui me sauvera. Écrivez à mon fils George, si pas de réponse bientôt. Au revoir, détruisez le cylindre, ne vous mêlez pas de ça. Votre éclair.
Sa lettre me plongea carrément dans la plus noire des terreurs. Je ne savais pas quoi dire en réponse, mais gribouillais quelques mots incohérents de conseil et d'encouragement et les envoyais par le courrier habituel. Je rappelais à éclair l'urgence de s'installer immédiatement à Brattleboro et de se placer sous la protection des autorités. Ajoutant que je voulais bien le rejoindre en cette ville avec l'enregistrement phonographique et l'aider à les convaincre de cette nécessité. Il était temps aussi, je pensais et l'écrivis, de mettre en garde les gens à propos de ces choses vivant parmi eux. Dans ce moment de tension, on peut le remarquer, ma croyance en tout ce qu'Eckley m'avait dit était complète, bien que je pensasse fortement que son échec à prendre une photographie du monstre mort n'était pas dû à un tour de la nature, mais de son fait, par une fausse manipulation dans son excitation. Thank you. Alors, croisant mon mot incohérent, le samedi 8 septembre, je reçus cette lettre absolument différente et curieusement calme, tapée avec netteté sur une nouvelle machine à écrire. Cette étrange lettre, pour me rassurer et m'inviter, mesurait à coup sûr une prodigieuse transition dans le drame nocturne de ces montagnes reculées. De nouveau, je vais la reconstituer de mémoire, et tenter pour une raison spéciale de préserver au mieux la teneur de son style. Elle était oblitérée de Billows Falls, et la signature, aussi bien que le corps de la lettre, était dactylographiée, ce qui est fréquent chez les dactylographes débutants. Le texte, cependant, était merveilleusement correct pour un travail de novice. J'en conclus qu'Eckley avait dû utiliser une machine à écrire dans une époque précédente de sa vie, peut-être à l'université. Dire que la lettre me soulagea tenait évidemment à sa nature, mais sous ce soulagement restait un substrat de malaise. Si Eckley avait été sensé dans sa peur, était-il aujourd'hui sensé dans sa délivrance? Et ce rapport pacifié mentionné, c'était quoi? La chose entière impliquait une telle renverse diamétralement opposée à la précédente attitude d'Eckley. Mais voici la substance du texte retranscrit avec soin, de mémoire, mais d'une mémoire dont j'ai quelques raisons d'être fier. À l'attention de M. Albert N. Wilmoth, Université Miskatonic, Arkham, Massachusetts, de Townsend, Vermont, le jeudi 6 septembre 1928. Mon cher Wilmoth, c'est avec beaucoup de plaisir que je peux vous rassurer désormais à propos de toutes ces choses idiotes que je vous ai écrites. Je dis « idiotes », même si par là j'entends plus mon attitude effrayée que mes descriptions de certains phénomènes. Ces phénomènes sont réels et d'importance évidente. Ma faute a seulement été d'adopter une attitude anormale envers eux. Je crois vous avoir mentionné que mes étranges visiteurs avaient commencé à communiquer avec moi et établi cette communication. La nuit dernière, cet échange oral est devenu effectif. En réponse à un signal convenu, j'ai laissé entrer chez moi un messager de ceux de là-bas, un être humain, je précise tout de suite. Il m'a surtout appris des choses que ni vous ni moi n'avions même pu commencer à deviner, et m'a montré clairement comment nous avions totalement mal jugé ces êtres et mal interprété leur projet de maintenir leur colonie secrète sur cette planète. Il semble que les légendes diaboliques à propos de ce qu'ils ont parfois proposé aux hommes et de ce qu'ils souhaitent en lien avec la Terre soient uniquement le résultat de conceptions ignorantes et de discours métaphoriques, discours bien sûr contraints par leur arrière-plan culturel et des habitudes de pensée trop séparées de tout ce à quoi vous et moi nous nous sommes consacrés. Mes propres conjectures, uniquement personnelles, ont volé en éclats, comme tous ces racontars de paysans illettrés et d'indiens sauvages. Ce que j'ai décrit comme morbide, honteux et ignominieux tient en réalité du génie, de l'ouverture d'esprit et même de la gloire. Mon point de vue précédent tenant surtout à cette tendance éternelle de l'homme à haïr et craindre et voir par le petit bout de la lorgnette ce qui lui est radicalement différent. Maintenant, j'ai du remords quand je pense au mal que j'ai infligé à ces incroyables êtres au cours de nos échauffourées nocturnes. Si seulement j'avais consenti à parler pacifiquement et raisonnablement avec eux dès le premier instant. Mais ils ne m'en tiennent pas rancune, leurs émotions étant organisées de façon très différente des nôtres. C'est leur malchance d'avoir eu comme agent humain dans le Vermont des individus très inférieurs, le défunt Walter Brown, par exemple. Il me fit grand préjudice dans mon rapport à eux. En vérité, ils n'ont jamais à ma connaissance fait de mal aux hommes, mais ont souvent été trompés et espionnés par ceux de notre espèce. Il y a tout un culte secret et diabolique. Un homme de votre érudition mystique me comprendra, si je les relis à Astour et au Cygne jaune, consacrés au projet de les pourchasser et de les attaquer en leur conférant des pouvoirs monstrueux venus des autres dimensions. C'est contre ces agresseurs, et non pas l'humanité ordinaire, que les précautions drastiques de ceux de là-bas sont prises. Incidemment, j'ai appris que la plupart de nos lettres égarées avaient été volées non par ceux de là-bas, mais par les émissaires de ce culte néfaste. Tout ce que ceux de là-bas souhaitent des hommes, c'est la paix et l'abandon des brutalités pour un nouvel échange intellectuel. Ce dernier point est absolument nécessaire maintenant que nos inventions et nos techniques peuvent multiplier notre connaissance et nos voyages, et rendre de plus en plus impossible à ceux de là-bas que leurs colonies avancées sur notre planète restent secrètes. Ceux de là-bas désirent mieux connaître l'humanité, et que quelques-uns de nos principaux philosophes et scientifiques puissent en savoir plus à leur propos. En inaugurant un tel échange de connaissances, tous les périls auront disparu, et on pourra établir ensemble un modus vivendi satisfaisant. L'idée même de les suspecter de vouloir rendre esclaves ou amoindrir l'humanité est ridicule. Comme symbole de ces rapports pacifiés, ceux de là-bas m'ont naturellement choisi, moi dont la connaissance d'eux-mêmes est déjà si considérable, comme leur premier interprète sur Terre. On m'en a dit beaucoup la nuit dernière, des faits de la plus prodigieuse nature, bouleversant l'esprit, et on m'en communiquera plus par la suite, oralement et par écrit. On ne va pas me demander de faire un voyage là-bas dans l'immédiat, mais je pense que j'aurai probablement à le faire plus tard, employant des moyens qui transcendent tout ce que nous sommes accoutumés ici-bas à considérer comme notre expérience humaine. Ma maison n'est plus assiégée. Tout est revenu à la normale et je n'ai plus besoin de chien. Au lieu de la terreur, j'ai eu la faveur d'une soudaine extension de connaissances, d'une aventure intellectuelle que peu d'autres mortels ont pu partager. Les êtres de là-bas sont peut-être les plus merveilleuses choses organiques dans ou hors de l'espace et du temps, les membres d'une espèce vaste comme le cosmos, et de laquelle toutes les autres formes vivantes sont plus ou moins des variantes dégénérées. Ils sont de nature plus végétale qu'animale, dans le sens où on peut ainsi considérer que la matière qui les compose a une structure proche de celle des champignons. Même si la présence d'une substance apparentée à la chlorophylle et d'un système nutritif très singulier les différencie tous ensemble d'une véritable morphologie de type fongien. Sans aucun doute, l'espèce est composée d'une forme de matière totalement absente de notre recoin de l'espace, les électrons notamment ayant un ratio de vibration très différent. C'est pour cela qu'ils ne peuvent être photographiés par les films et plaques ordinaires des appareils photographiques de notre univers, bien que nos yeux puissent les voir. Avec ces informations, cependant, n'importe quel bon chimiste pourrait créer une émulsion photographique qui enregistrerait leur image. La capacité de leurs gènes à traverser le froid intersidéral sans air, sans rien changer à l'intégrité de leur forme corporelle, est unique, là où quelques-unes de leurs variantes ne peuvent le faire sans aide mécanique ou intervention chirurgicale complémentaire. Seules quelques espèces ont ces ailes résistantes à l'éther, caractéristiques de celles du Vermont. Celles qui habitent certains sommets éloignés du vieux monde ont été amenées par d'autres moyens. Leur capacité mentale excède celle de toutes les autres formes vivantes, même si les espèces ailées de nos montagnes ne sont pas du tout les plus développées. La télépathie est leur moyen d'échange et de discours habituel, bien qu'ils aient des organes vocaux rudimentaires qui, après une légère opération, parce qu'ils sont incroyablement experts en chirurgie, d'un usage quotidien chez eux, peuvent copier à peu près la parole de tel type d'organisme utilisant encore la parole. Leur plus immédiate demeure est une planète que nous n'avons pas encore découverte, presque sans lumière, à la toute extrémité de notre système solaire, au-delà de Neptune, et la 9e à partir du Soleil. C'est, selon ce que nous en avions déduit, l'objet auquel il est mystiquement fait allusion sous le nom de Yugot dans certains écrits anciens interdits. Et il va probablement accaparer une étrange attention de pensée depuis notre monde si nous devons faciliter le rapport mental. Je ne serais pas surpris que les astronomes, s'ils disposent de ces informations, ne développent pas des techniques assez sensibles pour découvrir Yugot. Ceux de là-bas le désirent. Mais Yugot, bien sûr, n'est qu'une étape. La plus grande partie des êtres habite des abysses spécialement organisés loin au-delà de ce qu'atteint l'imagination humaine à son extrême. Le globule d'espace-temps que nous identifions comme la totalité de l'entité cosmique est seulement un atome de l'infinité primordiale qui est la leur. Et cette infinité, du moins la part qui en est accessible à un cerveau humain, m'est désormais ouverte, comme elle ne l'a pas été encore à 50 autres hommes depuis que l'espèce humaine existe. Vous croirez probablement à du délire, Wilmoth, mais avec le temps, vous apprécierez comme elle doit l'être l'opportunité gigantesque que j'ai saisie. Je souhaite que nous la partagions le plus possible et pouvoir vous transmettre ces milliers de choses que je ne puis mettre sur papier. Dans le passé, je vous ai mis en garde contre une éventuelle visite. Maintenant, tout est sûr. C'est avec plaisir que je lève cette mise en garde et vous invite. Pouvez-vous envisager votre venue avant la reprise des cours à votre université? Ce serait vraiment merveilleux si vous le pouviez. Rapportez avec vous l'enregistrement et l'ensemble de mes lettres. Nous en aurons besoin pour nous y rapporter. Nous devons les collationner pour établir cette considérable histoire. Rapportez aussi les tirages Kodak, parce que je crois que j'ai égaré les négatifs et mes propres épreuves dans toute cette agitation récente. Mais quelle masse de faits je puis ajouter à toute cette timide tentative, et quel extraordinaire récit j'ai pour la compléter. N'hésitez pas, plus personne ne m'espionne, et vous ne croiserez rien de non naturel ou de perturbant. Venez tout simplement, et je vous prendrai en voiture à la gare de Brattleboro. Organisez-vous pour rester tout le temps que vous pouvez, et attendez-vous à pas mal de soirs à discuter de ces choses au-delà de toute conjecture humaine. N'en parlez cependant à personne. Cette affaire ne doit pas concerner le public, toujours si confus. La ligne de train de Brattleboro n'est pas si mal. Vous trouverez les horaires à Boston. Prenez le Boston and Main jusqu'à Greenfield. Vous y trouverez la meilleure correspondance. Je vous suggérerais de prendre le 16h10 à Boston, horaire de l'Est. Il arrive à Greenfield à 19h35 et à 21h19, un train en repart qui arrive à Brattleboro à 22h01, du moins les jours de la semaine. Dites-moi seulement la date et vous me trouverez en voiture à la gare. Désolé pour cette lettre dactylographiée, mais mon écriture manuscrite a été trop secouée ces derniers temps, comme vous le savez, et je ne me sentais pas capable d'écrire aussi longuement. J'ai acheté cette corona à Brattleboro hier. Elle a l'air de fonctionner très bien. J'attends un mot, espérant vous voir au plus vite avec l'enregistrement, toutes mes lettres et les tirages Kodak. Toujours vôtre, par anticipation, Henry W. Eckley. Dire que mes émotions furent complexes à lire, relire et analyser cette étrange et inhabituelle lettre n'est pas l'expression adéquate. J'ai dit que j'étais soulagé, mais qu'il me restait aussi un sentiment de malaise, et cela exprime très crûment le ressenti de ces sensations multiples et largement subconscientes, qui comprenaient à la fois le soulagement et le malaise. Pour commencer, tout cela était si méthodiquement aux antipodes de la chaîne complète d'horreur qui l'avait précédée, le changement de sentiment depuis la terreur noire jusqu'à la tranquille complaisance, et même l'exultation était imprévu, comme un coup de foudre, et complet. Je pouvais difficilement croire qu'un seul et simple jour avait pu renverser la perspective psychologique de quelqu'un qui, le mercredi, écrivait une lettre qui semblait celle d'un condamné, indépendamment des éclaircissements qui avaient pu ensuite lui être fournis. Par moments, cette impression d'une irréalité conflictuelle me faisait me demander si ce compte-rendu distancié d'un drame concernant des forces fantastiques n'était pas une sorte de rêve mi-halluciné fabriqué à l'intérieur de mon propre esprit. Alors je pensais à l'enregistrement phonographique et cela me provoquait une excitation encore plus grande. La lettre semblait si différente de tout ce que j'aurais pu en attendre. Tandis que j'analysais mes impressions, je vis qu'elle consistait en deux phases différentes. D'abord, confiant dans le fait qu'Eclay était censé auparavant et était demeuré censé, le changement indiqué quant à la situation elle-même était trop rapide et impensable. Ensuite, le changement dans les façons d'Eclay, son attitude et son langage, était largement au-delà du normal ou du prédictible. L'ensemble de sa personnalité semblait avoir sombré dans une mutation insidieuse, une mutation si profonde qu'on pouvait difficilement réconcilier ces deux aspects avec la supposition que ses langages et attitudes présentaient un caractère également sensé. Le choix des mots, le style, tout avait subtilement changé. Avec ma formation académique à l'analyse de la prose, je décelais des divergences profondes dans les plus élémentaires réactions et le rythme de pensée. Certainement, le cataclysme émotionnel de la révélation qui avait dû produire un retournement aussi radical pouvait induire ces renversements extrêmes. Oui, en bien des sens, cette lettre était caractéristique d'Eclay. La même vieille passion pour l'infini, la même vieille tendance scolastique à raisonner. Je ne pouvais un instant, ou plus d'un instant, donner crédit à l'idée qu'elle était apocryphe, ou une substitution maligne. Est-ce que l'invitation, la volonté de me voir expérimenter la véracité de la lettre en personne, ne prouvait pas son authenticité? Je ne dormis pas ce samedi soir, mais restai là à penser aux ombres et aux merveilles jouant dans cette lettre que j'avais reçue. Mon esprit, endolori par la succession rapide de conceptions monstrueuses auxquelles j'avais dû me confronter ces 4 derniers mois, s'appropriait ces nouveaux éléments dans un cycle de doute et d'acceptation qui répétait les étapes précédentes, faisant face à tous ces mystères préalables. Et déjà avant l'aube, un intérêt et une curiosité brûlants avaient commencé à remplacer la tempête initiale mêlant perplexité et malaise. Fou ou sensé, métamorphosé ou englué dans ses croyances, il semblait qu'Eclay avait effectivement provoqué un changement incroyable dans ses recherches hasardeuses. Un changement diminuant brutalement le danger, réel ou fantasmé, qu'il courait, et ouvrant de vertigineux points de vue sur le cosmos et la connaissance humaine. Mon propre zèle pour l'inconnu se réveillait à cette sensation, et je me sentais envahi par contagion d'un goût morbide capable de briser toute barrière. Renverser les lassantes et exaspérantes limitations du temps et de l'espace dans nos lois naturelles, se rapprocher de la nuit des secrets abyssaux de l'infini et de l'illimité, sûrement cela valait d'y risquer sa propre vie, son âme et son sens. Et Eclay qui me disait qu'il n'y avait plus aucun danger, qui m'invitait au lieu de me mettre en garde comme auparavant. Je frissonnais à la pensée de tout ce qu'il avait dès maintenant à me dire. C'était une fascination quasi paralysante de la pensée, de venir s'asseoir dans cette ferme solitaire et reculée, devant un homme qui avait échangé directement avec les émissaires des êtres de l'au-delà de l'espace, de s'asseoir là avec l'enregistrement terrible et la pile de lettres dans lesquelles Eclay avait compilé toutes ses conclusions préliminaires. Aussi, au matin de ce dernier dimanche, je télégraphiais à Eclay que j'arriverais à Brattleboro le prochain mercredi, donc le 12 septembre, si la date lui convenait. En un seul point, je m'écartais respectueusement de sa suggestion, celui qui concernait le choix du train. Franchement, je ne me voyais pas arriver dans cette région hantée du Vermont tard dans la nuit. Aussi, plutôt que de prendre le train qu'il recommandait, j'avais téléphoné à la gare et choisi un autre arrangement. En voyageant plus tôt, en prenant le train de 8h07 pour Boston, horaire de l'Est, je pouvais attraper le 9h25 pour Greenfield et y arriver à 12h22. Cela me permettait la correspondance précise pour le train qui arrivait à Brattleboro à 13h08, une heure bien plus avenante que 22h01 pour faire la connaissance d'Eclay et voyager avec lui vers les crêtes secrètes et renfermées. je mentionnai ce choix dans mon télégramme et fus heureux d'apprendre par la réponse qui me parvint vers le soir qu'il acceptait sans problème ma proposition. Son télégramme était rédigé ainsi. Horaire très convenable, serait train 13h08, mercredi. Ne pas oublier enregistrement, lettres et photos. Voyagez tranquille. Attendez-vous grande nouvelle. Hey Clay. Recevoir ce message en réponse directe à celui que j'avais envoyé à Clay et qui lui avait été nécessairement transmis directement chez lui par un employé officiel ou par un service de téléphone personnalisé, supprima toutes les hésitations inconscientes éventuelles que j'avais pu avoir concernant l'auteur de la lettre étonnante. Mon attente était bien délimitée. Bien sûr, ce serait au-delà de ce que je pouvais en attendre et me formuler maintenant, depuis que tous mes doutes s'étaient profondément évanouis. Et je dormis comme une masse et longtemps cette nuit-là, puis m'affairai impatiemment à organiser mon voyage les 2 jours suivants. Je partis comme prévu le mercredi matin, emportant dans une valise à la fois quelques affaires personnelles et mes données scientifiques, y compris l'enregistrement I2, les tirages Kodak et la totalité des lettres d'Eclay. Comme demandé, je n'avais prévenu personne que je partais, ni où. Il était clair que cette affaire exigeait de la confidentialité, même maintenant sous son tour favorable. La pensée d'un contact mental direct avec ces êtres ou entités de l'extérieur était assez stupéfiante, même pour un esprit entraîné et préparé comme le mien. Et s'il en était ainsi pour moi, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de son effet sur les vastes masses des gens ordinaires ? Je ne sais pas, de la crainte ou de l'attente aventureuse, quel sentiment l'emportait en moi quand je changeais de train à Boston et commençais la longue route vers l'ouest, hors de mes régions familières, vers celles que je ne connaissais que de nom. Waltham, Concord, Ayer, Fitchburg, Gardner, Atoll. Mon train arriva à Greenfield avec 7 minutes de retard, mais la correspondance avec l'express pour le nord avait été assurée. Changeant en hâte, je ressentis une curieuse absence de respiration quand le train s'ébranla en ce milieu de journée ensoleillée dans ces territoires que je connaissais par mes lectures mais n'avais jamais visité. Je savais que j'entrais dans une nouvelle Angleterre à la fois d'anciennes mœurs et plus primitive que les régions côtières du sud, plus mécanisées et urbanisées, où j'avais passé ma vie. Une nouvelle Angleterre ancestrale et inviolée, sans les immigrants et la fumée des usines, et les publicités et les routes de béton, comme là où la modernité était passée. Ici se prolongeaient les bizarres survivances de cette vie locale intouchée, dont les racines profondes faisaient un avec la transformation du paysage. Cette vie locale qui gardait vive l'ancienne mémoire et fertilisait le sol de ses croyances secrètes, merveilleuses de sagesse. Par-ci, par-là, j'apercevais le Connecticut scintillant tout bleu au soleil, et après avoir quitté Northfield, nous le traversâmes. Les crêtes vertes et secrètes se dessinaient devant nous, et quand le contrôleur se présenta, je sus que j'étais enfin dans le Vermont. Il me dit de retarder ma montre d'une heure, parce que les comtés du Nord n'avaient pas voulu accepter les nouvelles conventions horaires. Et quand il me dit cela, ce fut comme si j'avais à reculer le calendrier d'un siècle. Le train s'éloignait peu du fleuve, et en traversant le New Hampshire, je pus contempler les montagnes désormais proches du Wantastiket, qui avaient engendré ces vieilles et si singulières légendes. Puis des rues surgirent sur ma gauche, et nous longions une île verte sur la droite. Les gens se levèrent et se dirigèrent vers la porte. Je les suivis. Le train s'arrêta, et je descendis sur le long quai de la gare de Brattleboro. Regardant la file des voitures à attendre, j'hésitais un instant pour savoir laquelle se révélerait être la Ford des Clay. Mais on devina mon identité avant que j'aie à prendre l'initiative. Et bien sûr, c'était très clair que cette personne qui s'avança vers moi la main tendue, puis me demanda d'une voix douce si j'étais, comme il le supposait, M. Albert N. Wilmoth d'Arkham, n'était pas Eckley lui-même. Cet homme n'avait aucune ressemblance avec Eckley et sa barbe grisonnante sur la photographie. Mais c'était quelqu'un de jeune et d'urbain, habillé à la mode et portant juste une fine et sombre moustache. Sa voix cultivée évoqua en moi une vague familiarité, bizarre et perturbante, mais j'aurais été en peine d'en trouver la source dans ma mémoire. Comme je l'observais, je l'entendis m'expliquer qu'il était un ami de celui qui allait m'accueillir et qu'il était venu depuis Townsend à sa place. « Eckley, me dit-il, souffrait d'une soudaine attaque d'asthme et ne s'était pas senti assez bien pour faire un tel voyage à l'air du dehors. Ce n'était pas grave, cependant, et il n'y avait rien de changé quant au programme de ma visite. Il m'était impossible de savoir en quoi ce M. Noyes, ainsi qu'il s'était présenté, connaissait les recherches et découvertes d'Eckley, même s'il me semblait que si c'était le cas, ses manières seraient moins désinvoltes. Considérant la vie d'ermite que menait Eckley, j'étais rien moins que surpris de l'existence soudain avérée d'un tel ami. Mais ma perplexité ne put me dissuader de monter dans la voiture qu'il m'indiqua. Ce n'était pas la petite voiture ancien style que je m'étais attendu à trouver d'après les descriptions d'Eckley, mais une grande et brillante voiture du dernier modèle, apparemment celle de Noyes lui-même, portant une plaque du Massachusetts avec la mention « Pays du Cabillaud » qui les ornait cette année. Mon guide, j'en déduisis, devait être un estivant en vacances dans la région de Townsend. Noyes monta à côté de moi et démarra aussitôt. Je fus heureux qu'il ne se révèle pas un grand parleur, parce qu'une certaine tension singulière dans l'atmosphère me dissuadait moi-même de toute conversation. La ville semblait bien attrayante dans la lumière de l'après-midi, tandis que nous grimpions la côte puis tournions à droite dans la rue principale. Elle somnolait comme les plus vieilles villes de Nouvelle-Angleterre que chacun se souvient de son enfance, et quelque chose dans l'assemblage des toits, clochers et cheminées parmi les murs de briques faisait profondément vibrer les cordes d'une émotion ancestrale. Je pouvais me dire que j'étais à l'entrée d'une région tout imprégnée de cet amoncellement de signes intouchés du temps. Une région où de vieilles et singulières choses avaient une chance d'advenir et de se développer parce que rien ne les dérangeait jamais. Comme nous sortions de Brattleboro, ma sensation de pesanteur et de pressentiment augmenta, pour le vague sentiment que ce paysage montagneux, avec ses pentes de granit imposantes et menaçantes, aux forêts étouffantes, appelait d'obscurs secrets et des survivances immémoriales qui pouvaient avec indifférence être ou ne pas être hostiles à l'humanité. Pendant un moment, nous suivîmes une rivière large et peu profonde, qui dévalait de ses crêtes inconnues du nord, et je frissonnais quand mon compagnon m'apprit qu'il s'agissait de la West River. C'était dans ces flots, me rappelais-je en pensant aux coupures de presse, que l'un de ces êtres morbides ressemblant à un crabe avait été aperçu flottant pendant les crues. Progressivement, le pays autour de nous devenait plus sauvage et inhabité. D'archaïques ponts couverts surgissaient effroyablement du passé dans les recoins des ravins, et la voie ferrée à l'abandon qui suivait la rivière semblait exhaler l'air visible d'une désolation nébuleuse. Il y avait les courbes impressionnantes de vallées bien nettes sous les levées de hautes falaises, le granit vierge de la Nouvelle-Angleterre se montrant gris et austère à travers la végétation qui partait à l'assaut des sommets. Depuis les gorges escarpées, des torrents sauvages surgissaient et apportaient à la rivière les secrets y révélés de milliers de pics sans route. D'étroites routes presque dissimulées se raccordaient ici et là à la nôtre, se frayant chemin à travers des masses luxuriantes et solides de forêts où il était facile de croire que des armées entières d'esprits élémentaires pouvaient s'héberger parmi les arbres primaires. Et je repensais, les contemplant, à comment Éclair avait pu être attaqué par des agents invisibles en conduisant sur cette même route, sans plus m'étonner que de telles choses puissent être. En moins d'une heure, nous avions atteint le pittoresque village de Newfane, presque comme une carte postale, qui était notre dernier lien à ce monde que l'homme pouvait avec certitude nommer le sien, par la vertu de ses conquêtes et d'une occupation complète. Après cela, nous pouvions rejeter toute allégeance aux choses temporelles, immédiates et tangibles, pour entrer dans le monde fantastique d'une irréalité silencieuse, où notre petite route étroite comme un ruban montait, descendait et tournait selon ses caprices résolus et affirmés, au gré des pics verts qui la dominaient et de leurs vallées quasi inhabitées. À part le bruit du moteur et les quelques fermes solitaires entreaperçues au loin à de rares intervalles, la seule chose qui m'atteignait l'ouïe était ce bouillonnement insidieux d'étranges eaux surgissant en infinies cascades, cachées dans les bois sans lumière. La proximité et l'intimité des crêtes qui nous recouvraient vous asphyxiaient progressivement. Bien plus raides, abruptes et hautes que je ne l'avais imaginé d'après ce que j'en avais vu ou lu, elles paraissaient n'avoir rien de commun avec le monde prosaïque que nous connaissons. Les forêts touffues et inaccessibles de ces pentes offraient un havre tout près à ces inimaginables êtres du dehors, et il me semblait que le côté hors du monde de ces montagnes était lui-même dépositaire de quelques significations étranges et oubliées, comme si elles avaient été un vaste hiéroglyphe laissé par quelque race titanesque, dont la mémoire chuchotée survivait seulement dans des rêves rares et profonds. Toutes les légendes du passé, toutes les imputations stupéfiantes dont Éclair me faisait part dans ses lettres et arguments, se rejoignaient dans ma mémoire pour rehausser encore cette atmosphère de tension et de menace grandissante. Le projet de ma visite, les anormalités effrayantes qu'il visait me heurtèrent avec une froide sensation soudain plus forte que mon ardeur pour ces fouilles étranges. Mon guide avait dû remarquer mon changement troublé d'attitude. À mesure que la route devenait plus sauvage et encore plus irrégulière, et notre vitesse plus ralentie sur les chaos, ses commentaires occasionnels et plaisants devinrent un discours appuyé et continu. Il parlait de la beauté et de la sauvagerie du pays, et se révéla un connaisseur des études folkloriques de l'hôte que nous rejoignions. De ces questions polies, il était évident de conclure qu'il savait que je venais dans un but scientifique, et que j'étais porteur d'éléments d'importance. Mais il ne me donna aucun signe d'être au courant de la profondeur et l'horreur de la connaissance qu'Éclair avait finalement atteinte. Sa façon d'être était si avenante, normale et civilisée, que ses récits auraient dû me tranquilliser et me rassurer. Mais, de façon bizarre, je me sentais de plus en plus perturbé à mesure que nous grimpions et nous enfoncions dans la sauvagerie inconnue des crêtes et des bois. Par moments, il me semblait qu'il souhaitait seulement me tester pour savoir ce que je connaissais des monstrueux secrets de ces lieux, et chacune de ses paroles réveillait en moi avec plus d'insistance cette vague familiarité perturbante et déroutante. Ce n'était pas une familiarité ordinaire ou neutre, malgré ses façons absolument agréables et son évidente culture. Je la reliais à un cauchemar oublié, et sentais que je deviendrais fou en la reconnaissant. Si une quelconque bonne excuse avait été à ma portée, je crois que j'aurais renoncé à ma visite. Tel que c'était, je ne pouvais plus faire autrement, et me confortait l'idée qu'une conversation tranquille et posée avec Éclair lui-même, à mon arrivée, m'aiderait grandement à me reprendre. Hors de cela, le paysage hypnotique à travers lequel nous grimpions et descendions fantastiquement comportait un élément de beauté cosmique qui me calmait étrangement. Le temps avait disparu dans ces labyrinthes qui nous entouraient. Autour de nous ne battaient plus que les vagues féeriques des charmes retrouvés des siècles passés, les bois vénérables, quelques prés dans leurs belles teintes d'automne, et d'intervalle à intervalle, des petites fermes de pierres brutes venues se nicher sous des arbres gigantesques et dont les prairies jouxtaient la verticale de précipices de ronces odorantes. Même le soleil assumait un éclat d'outre-monde, comme si cette atmosphère ou exhalation spéciale recouvrait toute la région. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant, hors les paysages magiques qui forment parfois l'arrière-plan des primitifs italiens. Mantegna ou Léonard avaient conçu de telles perspectives, mais seulement au loin, et vues au travers des arcanes de la Renaissance. Nous étions désormais corporellement entourés par les formes de leurs tableaux, et il me semblait trouver dans ce qu'ils conjuraient une chose que j'avais toujours instinctivement su ou hérité, et dont j'avais toujours été vainement en quête. Soudain, après avoir pris un virage en épingle à cheveux au sommet d'une brusque côte, la voiture s'arrêta. Sur ma gauche, derrière une pelouse bien tenue qui partait de la route et s'ornait d'une bordure de pierre presque blanche, s'élevait une maison de 2,5 étages, toute blanche, d'une taille et d'une élégance inhabituelles pour la région, avec une suite contiguë de remises, granges et meuneries reliées par des arcades à l'arrière et sur l'aile droite. Je la reconnus de suite comme celle de la photographie que j'avais reçue, et ne fus pas surpris de découvrir le nom de Henry Eckley écrit sur la typique boîte à lettres de fer-blanc arrondi auprès de la route. Tout près, derrière la maison, une étendue marécageuse et peu boisée, au-delà de laquelle commençait brutalement une forêt très épaisse, s'élevant vers une corniche irrégulière et touffue. Le sommet, je le savais, de la montagne noire dont nous venions d'escalader les contreforts. Descendant de la voiture et prenant ma valise, Noyes me demanda d'attendre pendant qu'il irait prévenir Eckley de mon arrivée. Lui-même, me prévint-il, avait ensuite un important rendez-vous pour affaire et il ne pourrait s'arrêter plus d'un moment. Comme il s'éloigna vivement vers la maison, je descendis moi-même de la voiture, ne serait-ce que pour me dégourdir les jambes avant que nous nous installions pour une longue conversation immobile. Mon sentiment de nervosité et de tension était à nouveau à son comble, maintenant que j'étais sur la véritable scène du siège morbide décrite de façon si obsédante dans les lettres d'Eckley, et je craignais honnêtement nos discussions à venir, qui me mettraient en rapport avec de tels êtres et leurs mondes interdits. Le contact rapproché de l'éminemment bizarre est souvent plus terrifiant qu'inspirant, et cela ne me remontait pas le moral de penser que là même où j'avais les pieds, sur ce chemin de terre, était l'endroit où les empreintes de ces monstres et cette liqueur verte fétide avaient été retrouvées au terme des nuits sans lune mêlant la peur et la mort. Sans y accorder plus d'importance, je remarquai qu'aucun des chiens d'Eckley ne se manifestait. Les avait-il tous rendus, sitôt qu'il eût fait la paix avec les êtres du dehors? J'avais beau faire, je n'avais plus la même confiance en la sincérité et l'authenticité de cette paix telle qu'elle transparaissait dans sa dernière lettre, si terriblement différente. Après tout, il était un homme de grande simplicité, avec très peu d'expérience du monde. Est-ce qu'il ne se tramait pas peut-être quelque sinistre et souterraine combinaison sous cette nouvelle alliance ? Suivant mes pensées, je tournai les yeux en arrière, vers la poussiéreuse surface du chemin qui avait provoqué de si hideux témoignages. Les derniers jours avaient été très secs, et des empreintes de toutes sortes s'y mêlaient en fouillis, malgré le peu de fréquentation des lieux. Avec une vague curiosité, je commençai à reconstituer les pistes de quelques-unes de ces impressions hétérogènes, tentant de détourner les imaginations les plus macabres que le lieu et ma mémoire m'apportaient en flot. Il restait quelque chose de menaçant et d'inconfortable dans ce silence funèbre, l'écoulement assourdi des ruisseaux invisibles et les crêtes touffues de bois noir s'accumulant en foule sur les précipices qui trouaient l'horizon. Alors, sur ce fond de menace, une image vint me heurter de telle façon que ces premières imaginations et fantasmes me semblèrent soudain aimables et insignifiants. J'ai dit que je m'étais mis à regarder ces traces mêlées du chemin avec une sorte de curiosité paresseuse, Mais d'un coup, cette curiosité fut écrasée par une bourrasque paralysante, soudaine et dégoûtante de pure terreur. Alors que, ailleurs, les traces dans la poussière étaient confuses et embrouillées, insuffisantes pour en déduire une réflexion à l'endroit où l'allée qui venait de la maison rejoignait la route elle-même, certains détails me sautèrent à la figure. Et je reconnus sans aucun doute ni espoir la signification effrayante de ces détails. Ce n'était pas pour rien, hélas, que j'avais passé des heures sur les tirages Kodak des empreintes de griffes qu'Aclay m'avait expédiées. Je les reconnaissais trop bien, les marques de ces dégoûtantes pinces, et cette impression de direction équivoque qui désignait ces horreurs comme n'étant pas de notre planète. Aucune chance ne m'était plus laissée avec pitié pour croire à l'erreur. Ici même, avec évidence, dans une forme objective et sous mes propres yeux, ne datant sûrement pas de plus de quelques heures, de la pléthore surprenante de traces mi-effacées en provenance ou en direction de la ferme des Clés, surnageaient comme des blasphèmes au moins trois empreintes, les griffes diaboliques des champignons vivants de Yougot. Je me retins juste à temps de pousser un cri. Après tout, à quoi d'autre pouvais-je m'attendre, avec tout ce que je m'étais mis à croire dans les lettres des Clés? Il m'avait expliqué avoir fait la paix avec ces choses. Qu'y avait-il d'étrange, alors, à ce qu'elles lui rendent visite chez lui? Mais la terreur l'emportait sur ce qui me rassurait. Est-ce que quiconque sur cette terre pouvait rester impassible la première fois devant ces griffes d'êtres animés venus des profondeurs de l'espace? À ce moment, j'aperçus Noyce passer le porche et venir vers moi d'un pas rapide. J'avais à garder le contrôle de moi-même, pensais-je, au cas où ce nouvel et formidable ami des Clés n'avait rien su des preuves profondes et stupéfiantes du monde interdit. Et Clay se hâta de m'informer Noyce, était heureux de me recevoir et prêt à cela. Cependant, sa brutale attaque d'asthme l'empêchait d'accomplir ses devoirs d'hôte pendant un jour ou deux. Ses malaises le frappaient sévèrement quand il se produisait, toujours accompagné d'une fièvre incapacitante et d'une grande faiblesse. Il n'était bon à rien tant que cela durait. Il ne pouvait que chuchoter et était très maladroit et faible s'il se levait. Ses articulations enflaient. Aussi devait-il se bander pieds et chevilles comme quand la goutte s'en prend au vieux mangeur de viande rouge. Aujourd'hui, il était dans cet état. Je ne pourrais donc ne compter que sur moi. Mais il n'était pas moins impatient que moi d'entamer notre conversation. Je le trouverais dans son bureau, sur la gauche du hall d'entrée, la pièce dont les volets étaient clos. Il devait rester dans l'obscurité quand il était malade, parce que ses yeux devenaient hypersensibles. Une fois que Noyce m'eut fait ses adieux et fut reparti plein nord dans sa voiture, je me dirigeais lentement vers la maison. On avait laissé la porte entrouverte à mon intention. Avant d'approcher et d'entrer, je pris la précaution d'un tour d'horizon de la maison tout entière, essayant de comprendre ce qui me frappait et me la rendait si intangiblement suspecte. Les granges et remises semblaient bien tenues et prosaïques, et je remarquai la forte cabossée des Clés sous un large auvent sans portail. Alors je compris le secret de cette bizarrerie. C'était le silence absolu. D'ordinaire, une ferme laisse percevoir l'activité et les bruits de tout ce qu'elle comporte de vivant, mais ici tout signe de vie s'était absenté. Il n'y avait donc plus ni poule ni cochon. Le bétail, Eclay m'avait dit entretenir plusieurs vaches, pouvait raisonnablement avoir été conduit à un pâturage, et peut-être qu'il avait revendu ses chiens. L'absence de tout caquetage et grognement était vraiment singulière. Je ne m'attardai pas sur le chemin et entrai résolument par la porte ouverte et la refermai derrière moi. J'avais eu à réaliser un effort psychologique énorme pour le faire, et maintenant j'étais enfermé là. J'eus un instant la tentation d'une retraite précipitée. Non que la maison ait été du tout sinistre à contempler. Au contraire, je retrouvais la grâce de ces aménagements semi-coloniaux dans le hall, meublés avec goût et agréables, laissant admirer la prospérité évidente de celui qui l'avait aménagé. Ce qui me poussait à fuir était quelque chose de très sourd et d'indéfini. Peut-être que c'était une certaine odeur bizarre qu'il me sembla percevoir, alors que je connaissais si bien ce que sont les odeurs, même dans les plus belles des anciennes fermes. Refusant de me laisser envahir et submerger par le nuage de ses doutes, je me souvins des instructions de Noyes et poussai la porte blanche à large panneau clouté de cuivre qui était sur la gauche. La pièce dans laquelle j'entrais était dans l'obscurité, comme j'en étais prévenu. Et quand j'y entrais, je remarquai que l'odeur bizarre y était plus forte. Il me semblait percevoir le rythme très faible, peut-être imaginaire, d'une vibration dans l'air. Au début, les volets clos ne me permirent de voir que très peu, mais progressivement une toux contrite et le bruit d'un sifflement attirèrent mon attention vers un grand fauteuil dans le coin le plus éloigné et le plus sombre de la pièce. Dans cette ombre profonde, je reconnus la trace pâle d'un visage d'homme et de ses mains. En un moment, je traversai pour saluer cette forme qui avait essayé de parler. Si faible que soit la lumière, je reconnus indubitablement mon hôte. J'avais assez étudié le tirage photographique. Il ne demeurait aucune ambiguïté quant à ce ferme visage buriné par le temps et à sa barbe courte et grisonnante. Mais comme je le regardais à nouveau, cette reconnaissance se mêlait de tristesse et d'anxiété. Parce que, de toute évidence, ce visage était celui d'un homme très malade. Je compris qu'il devait y avoir quelque chose de plus que l'asthme derrière cette expression rigide, tendue et immobile. Et je réalisais combien ces expériences effroyables avaient dû créer de tensions en lui. Est-ce que ce n'était pas assez pour briser n'importe quel être humain, même quelqu'un de plus jeune que cet intrépide fouilleur de l'interdit ? Cette étrange et soudaine révélation, j'en avais peur, était arrivée trop tard pour le sauver de quelque chose comme un effondrement général. Elle me faisait pitié la manière dont ses mains restaient sans vie, courbes et molles sur ses genoux. Il était vêtu d'une ample robe de chambre, sa tête emmaillotée depuis les épaules et haut sur le cou par une écharpe ou un châle coloré. Je compris alors qu'il essayait de me parler, utilisant cette même façon chuchotée par laquelle il m'avait accueilli. C'était difficile de le comprendre tout d'abord, d'autant que sa moustache grise recouvrait le mouvement des lèvres et quelque chose dans le timbre m'égarait sensiblement. Mais en reconcentrant mon attention, je pus bientôt en saisir le sens parfaitement bien. Son accent n'était en aucun cas rural et son langage encore plus châtié que sa correspondance me l'avait fait supposer.
Monsieur Wilmoth, je suppose. Vous devrez m'excuser de ne pas me lever. Je suis vraiment malade, comme Monsieur Noyes a dû vous en informer. Mais je n'ai pu résister à vous avoir comme nous l'avions prévu. Vous savez ce que je vous ai écrit dans ma dernière lettre. J'aurai tant à vous dire dès demain, quand je me sentirai mieux. Je ne peux vous exprimer combien je suis heureux de vous recevoir en personne après toutes nos lettres. Vous les avez apportées avec vous, n'est-ce pas ? Ainsi que les tirages photographiques et l'enregistrement. Noyes a déposé votre valise dans le hall. Je pense que vous l'avez vue. Pour ce soir, je crains que vous ayez à prendre patience et vous organiser seul. votre chambre est à l'étage, juste au-dessus de cette pièce, et vous trouverez une salle de bain disponible en haut de l'escalier. Il y a un repas prêt pour vous dans la salle à manger, juste en face de cette porte sur la droite. À vous de vous servir au moment où vous le souhaiterez. Je serai un hôte plus disponible demain matin, mais pour l'instant, cette faiblesse me laisse terriblement impotent. Considérez-vous chez vous. J'aimerais seulement que vous rassembliez les lettres, les photographies et l'enregistrement, et les déposiez ici, sur cette table, avant d'emporter vos affaires à l'étage. C'est ici que nous en discuterons. Voyez, j'ai mon phonographe sur cette commode. Non, je vous remercie. Il n'y a rien de plus que vous puissiez faire pour moi. Je connais ces crises depuis longtemps. Revenez me voir pour une petite visite avant la nuit. Ensuite, vous irez dormir quand vous le souhaiterez. Je me reposerai ici. Peut-être même y dormirai-je comme je le fais souvent. Demain matin, je serai bien plus capable d'aborder les choses qu'il nous revient d'examiner. Vous êtes conscient, je pense, de la nature infiniment surprenante des faits que nous avons à traiter. Pour nous, comme pour seulement quelques rares hommes sur cette terre, seront ouverts les abîmes du temps, de l'espace et de la connaissance au-delà de toutes choses limitées par les conceptions humaines de la science et de la philosophie. Savez-vous qu'Einstein se trompe et que certains objets et certaines forces peuvent se déplacer avec une vitesse plus grande que celle de la lumière? Avec l'aide appropriée, j'espère voyager en amont et en aval dans le temps et réellement voir et découvrir la Terre dans son passé lointain et ses époques futures. Vous ne pouvez pas imaginer le degré auquel ces êtres ont porté la science. Il n'y a rien qu'ils ne puissent faire avec l'esprit et le corps des organismes vivants. Je voudrais visiter d'autres planètes et même d'autres étoiles et galaxies. Mon premier voyage sera pour Yugot, le plus proche des mondes occupés par les êtres. C'est une planète obscure à la toute extrémité de notre système solaire, encore inconnue des astronomes terriens. Mais cela, j'ai dû vous l'écrire. Au moment voulu, vous le savez, les êtres d'ici émettront des courants de pensée vers nous et en permettront la découverte, ou bien laisseront un de leurs alliés humains en donner un indice aux scientifiques. Il y a de puissantes villes sur Yugot, de grands étagements en terrasse, de tours faites de cette pierre noire dont j'ai tenté de vous faire parvenir un spécimen. Elle venait de Yugot. Le soleil là-bas ne brille pas plus qu'une de nos étoiles, mais les êtres n'ont pas besoin de lumière. Ils ont d'autres sens, plus subtils, et ne placent pas de fenêtres dans leurs demeures et grands temples. La lumière même les blesse, les handicape, et leur rend les choses confuses, parce qu'elle n'existe pas dans le noir cosmos au-delà de l'espace et du temps dont ils proviennent originellement. Atteindre Yugot rendrait fou un homme faible, et pourtant j'irai. les rivières de pois noirs qui coulent sous ces mystérieux ponts cyclopéens, des choses bâties par quelque espèce plus vieille encore, éteintes et oubliées avant même que les êtres soient parvenus à Yukot depuis les abîmes extrêmes, suffirait à faire de n'importe quel homme un Dante ou un Poe s'il voulait lui rester de la santé mentale assez longtemps pour raconter ce qu'il a vu. Mais souvenez-vous, le monde obscur des jardins champignons et des maisons sans fenêtres n'est pas si terrible. C'est seulement à nous qu'il le paraît. Et ce monde-ci a probablement dû paraître symétriquement terrible aux êtres quand ils ont d'abord exploré l'âge primordial. Comme vous le savez, ils étaient déjà ici longtemps avant que l'époque fabuleuse de Cthulhu soit révolue, et ils se souviennent de l'engloutissement de Rliet quand il était au-dessus des eaux. Ils sont descendus dans l'intérieur de la Terre aussi. Il y a des ouvertures dont les êtres humains ne savent rien, et quelques-unes tout près dans ces crêtes du Vermont, et des considérables mondes de vie inconnus là-dessous. Les reflets bleus de Knian, les reflets rouges de Yot, et Enkai la noire et sans lumière. C'est de Enkai que vient l'effrayante Tsatogua. Vous vous souvenez, l'amorphe créature divine en forme de crapaud mentionnée dans les manuscrits d'Hypnacotique, le Necronomicon et le cycle mythique des Comarium, préservé par Clark Ashton, le grand prêtre de l'Atlantide. Mais nous aurons tout le temps de parler de cela. Il doit être 4 ou 5 heures de l'après-midi maintenant. Allez installer vos affaires, mangez une bouchée et revenez ensuite pour que nous causions tranquillement.
Très lentement, je me retournais et commençais d'obéir à mon hôte. Ouvrant ma valise, j'en sortis et déposai sur la table centrale les articles souhaités, puis montai à la chambre désignée comme la mienne. Ayant en mémoire l'empreinte de griffes toute fraîche au bord de la route, les assertions chuchotées des Clay m'avaient affecté d'étranges manières. Et toutes ces allusions à sa familiarité avec le monde inconnu de cette vie fongienne, la Yugot interdite, me donnait la chair de poule bien plus que je l'aurais souhaité. J'étais sincèrement désolé qu'Eclay soit malade, mais je dois avouer que son chuchotement rauque me créait autant de répulsion que de pitié. Si seulement il avait moins exulté au sujet de Yugot et de ses noirs secrets. Ma chambre se révéla très agréable et bien meublée, sans cette impression d'une odeur de moisie ni cette perception dérangeante de vibration. Après avoir rangé ma valise, je descendis remercier Eckley et prendre la collation préparée à mon intention. La salle à manger était juste vis-à-vis de son bureau, et j'aperçus la cuisine dans l'aile qui la prolongeait. Sur la table m'attendait un ample choix de sandwichs, gâteaux et fromages. Une bouteille thermos et des tasses promettaient que le café chaud n'avait pas été oublié. Après un repas d'excellente saveur, je me servis libéralement une tasse de café, mais trouvai que la qualité culinaire n'était plus soudain en accord. La première gorgée révéla un faible mais désagréable goût amer, et je n'en bus pas plus. Tout au long de ma collation, je pensais à Eclay, assis silencieusement dans son grand fauteuil au fond de la pièce noire voisine. Une fois, j'y entrai pour lui proposer de partager mon repas, mais il reprit son chuchotement pour dire qu'il ne pouvait rien manger encore. Plus tard, juste avant de dormir, il prendrait un peu de lait, tout ce qu'il supporterait d'avaler aujourd'hui. Après le repas, il me sembla convenable d'emporter les plats et de laver les ustensiles dans l'évier de la cuisine, vidant sans y penser le café que je n'avais pas été capable d'apprécier. Puis, retournant dans le bureau obscur, j'approchai une chaise près du coin où veillait mon hôte et me préparai à la conversation telle qu'il lui plairait de la conduire. Les lettres, les photographies et l'enregistrement étaient toujours au milieu de la table, mais pour l'instant, nous n'avions pas besoin de nous y référer. Avant longtemps, j'oubliais même l'odeur bizarre et la curieuse impression de vibration. J'ai dit qu'il y avait nombre de choses dans quelques-unes des lettres d'Aeclay, et particulièrement la deuxième, la plus volumineuse, que je n'oserais pas citer, et encore moins évoquer avec des mots sur une page. Cette hésitation valait avec une force encore plus grande pour les choses que j'entendis ce soir-là, chuchoter dans la nuit, dans la pièce obscure perdue au milieu de ces montagnes hantées. De l'immensité des horreurs cosmiques évoquées par le chuchotement rauque, il n'est même pas question que j'y fasse allusion. Aeclay avait connu bien des choses cachées auparavant, mais ce qu'il avait appris depuis qu'il avait fait la paix avec les êtres de là-bas était beaucoup trop lourd à porter pour le sens ordinaire. Même aujourd'hui, je me refuse absolument à croire ce qu'il en déduisait, lui, sur la constitution de l'infini ultime, partant de la juxtaposition des dimensions et de la précaire position de notre propre cosmos dans l'espace et le temps continu de la chaîne infinie définissant ce supercosmos de courbes, d'angles et de matières dans son organisation atomique. Jamais un homme sensé n'avait été si dangereusement près des arcanes de l'entité de base, jamais un cerveau organique plus près de l'extrême annihilation dans le chaos qui transcende forme, force et symétrie. J'appris d'où Cthulhu était d'abord venu et pourquoi la moitié des grandes étoiles éphémères de l'histoire s'était embrasée. Je devinais, à certaines allusions qui faisaient faire même à mon interlocuteur une pause timide, le secret derrière la constellation de Magellan et la Voie lactée, et la sombre vérité dissimulée dans les arcanes immémoriaux du Tao. La nature des Dolls me fut pleinement révélée, ainsi que l'essence, mais non la source, des chiens de Tyndalos. La légende de Yig, le père des serpents, n'avait plus rien de figuratif, et je ressentis une vraie répugnance quand on me parla du monstrueux chaos nucléaire au-delà de l'espace géométrique que le Necronomicon a cerné généreusement sous le nom d'Azathoth. C'était terrible de voir les plus fous cauchemars des mythes secrets s'évanouir dans des termes concrets, dont l'aigreur et la force morbide allaient bien plus loin que les plus hardies hypothèses de la mystique médiévale. Inéluctablement, j'étais conduite à penser que les premiers à parler de ces légendes maudites avaient été en contact avec ces êtres du dehors dont parlait Aeclay, et peut-être avaient-ils visité leur royaume cosmique de la même façon qu'Aeclay se proposait de le faire. On me parla de la pierre noire et de ce qu'elle impliquait, au point que je me sentis rassurée qu'elle ne me soit pas parvenue. Mes hypothèses à propos de ces hiéroglyphes n'étaient que trop correctes. Et Aeclay semblait maintenant réconcilié avec l'intégralité de ce système ennemi qu'il avait combattu, impatient d'expérimenter plus loin les abysses monstrueux. Je me demandais quels étaient ces êtres auxquels il avait parlé depuis la dernière lettre qu'il m'avait expédiée, et combien parmi eux étaient des hommes, comme le premier émissaire qu'il m'avait mentionné. La tension dans mon crâne devint insupportable, et je construisais toutes sortes de théories folles à propos de cette odeur bizarre et insistante, ainsi que sur cette impression insidieuse de vibration dans la pièce noire. La nuit était tombée maintenant, et lorsque je me souvins ce qu'Aeclay m'avait écrit à propos des nuits qu'il avait traversées, je frissonnais en pensant que celle-ci serait sans lune. Et je n'aimais pas non plus la façon dont cette ferme nichait dans les forêts de cette colossale pente menant à la crête invisible de la montagne noire. Avec la permission d'Aeclay, j'allumai une petite lampe à huile, en réduisis la mèche et l'installai sur une étagère distante, près du fantomatique buste de Milton que je reconnus. Mais aussitôt je m'en repentis, tant cela rendait le visage de mon hôte raide et immobile, et ses mains si molles qu'elles en semblaient anormales et cadavériques. Il semblait quasi incapable de mouvement, bien que de temps en temps il me fît une brève inclinaison de la tête. Après ce qu'il venait de me dire, je pouvais difficilement imaginer quels secrets encore plus profonds il réservait pour notre rendez-vous du lendemain. Mais comment il s'organiserait pour ce voyage à Yougoth et au-delà, et quel rôle possible je pourrais y prendre, c'était assez pour continuer. Il avait dû être amusé par l'expression d'horreur dont je témoignais à l'idée d'un voyage cosmique auquel je pourrais participer, parce que sa tête fut violemment secouée quand je montrais ma peur. Après quoi, il me parla très doucement de quelle manière les êtres humains pourraient accomplir, et plusieurs fois avaient accompli, ce vol apparemment impossible à travers le vide interstellaire. Il semblait que le corps humain complet, bien sûr, ne pouvait pas faire ce voyage, mais que le prodigieux savoir-faire des êtres de là-bas en matière de chirurgie, biologie, chimie et mécanique avait élaboré un procédé pour transporter les cerveaux humains hors de leur structure physique concomitante. Il existait donc un moyen sans douleur d'extraire le cerveau et un moyen de garder le résidu organique en vie pendant son absence. La matière cérébrale nue et compacte est alors immergée dans un liquide régulièrement renouvelé, à l'intérieur d'un cylindre hermétique d'un certain métal de Yougoth où des électrodes, implantées via des instruments perfectionnés, étaient capables de dupliquer les trois facultés vitales que sont la vue, l'ouïe et la parole. Pour transporter les cylindres à cerveau dans l'espace, les êtres champignons ailés ont une solution très simple. Ainsi, sur chaque planète couverte par leur civilisation, ils retrouvent une quantité d'instruments à facultés réglables, capables de se connecter au cerveau placé dans les cylindres. De telle façon qu'après quelques réglages, ces intelligences nomades peuvent recevoir une vie pleinement sensorielle et articulée, même sans corps ni aide mécanique, à chaque étape de leurs voyages à travers et au-delà l'espace-temps continu. C'était aussi simple que d'emporter un enregistrement phonographique et de le rejouer n'importe où qu'on trouvera un autre phonographe. De l'efficacité de tout cela, on ne pouvait rien mettre en cause. Et Clay n'en était pas effrayé. Est-ce que tout cela ne s'était pas accompli de tout temps? Pour la première fois, une des mains inertes et dévastées se leva et me montra une haute étagère sur la cloison la plus éloignée de la pièce. Là, bien aligné, je découvris plus d'une douzaine de cylindres de métal que je n'avais pas remarqués auparavant. Des cylindres d'environ 30 cm de haut et un peu moins en diamètre, avec trois curieuses électrodes placées en triangle isocèle sur la paroi convexe au devant de chacun d'eux. L'une d'elles étant reliée à chacune des deux autres, et de là à une paire de machines étranges placées à l'arrière. De leur fonctionnement, je n'avais pas besoin d'explication, et je tremblais de fièvre en les voyant. Je remarquai alors, dans un autre angle plus proche de la pièce, l'endroit où plusieurs instruments compliqués étaient reliés par des câbles et des prises, plusieurs d'entre eux ressemblant aux appareils laissés derrière les cylindres, et tous se reliés ensemble.
Il y a quatre sortes d'instruments ici, Wilmoth,
reprit la voix.
Quatre sortes, et trois facultés chacune font 12 appareils en tout. Comme vous le voyez, il y a quatre différents types d'êtres présents dans ces cylindres là-haut. Trois hommes, 6 êtres fongiens, mais qui ne peuvent voyager corporellement dans l'espace, et 2 habitants de Neptune. Dieu, si vous saviez à quoi ressemble leur corps sur leur propre planète. Et les autres sont des entités des grottes centrales d'une des étoiles noires les plus curieuses d'au-delà notre galaxie. Dans la colonie principale, à l'intérieur de la montagne de la Ronde, vous pourriez voir d'autres cylindres et machines, les cylindres de cerveau extracosmiques, avec des sens autres que ceux que nous connaissons. Des alliés et explorateurs de l'espace extrême et des machines spécialement conçues pour leur donner les impressions et une expression spécialement étudiées pour chacun d'eux et adaptées à la compréhension de différents types d'interlocuteurs. La montagne de la Ronde, comme la plupart des principales colonies de ces êtres dans l'ensemble des divers univers, est un lieu très cosmopolite. Bien sûr, c'est seulement les types les plus communs qui m'ont été accordés pour l'expérience. Tenez, prenez ces trois machines que vous voyez là-bas et apportez-les sur la table. Cette grande avec deux lentilles sur le devant, puis la boîte avec ses tubes à vide et son haut-parleur, enfin celle qui a ce disque de métal sur le dessus. Maintenant, voyez le cylindre avec l'étiquette B67 collée dessus. Montez sur cette chaise pour atteindre l'étagère. C'est lourd, pas d'importance. Prenez bien le B67, pas un autre. Laissez celui d'à côté, le tout neuf, plus brillant, relié aux deux consoles de mesure, celui qui porte mon nom. Posez le B67 sur la table près des deux machines et réglez le commutateur des trois machines sur l'extrême gauche. Maintenant, reliez le câble de la machine à l'antille aux deux électrodes sur le cylindre, ici. Reliez le tube à l'électrode basse, celle sur la gauche, et l'appareil avec le disque sur l'autre. Maintenant, poussez les trois commutateurs vers l'extrême droite. D'abord la lentille, puis le disque, enfin le tube. C'est cela. Je ferais bien de vous dire qu'il s'agit d'un être humain, juste comme n'importe lequel d'entre nous. Demain, je vous donnerai un avant-goût des autres.
Aujourd'hui encore, je ne comprends pas comment j'ai pu obéir à cette voix chuchotée dans la nuit, en esclave, ni même savoir si Eclay était sensé ou fou. Après ce qui s'était passé auparavant, j'aurais dû être préparé à tout, mais cette mystification chuchotée semblait une de ces divagations typiques d'un inventeur ou d'un scientifique fou, éveillant comme une gerbe de doute même quand le discours qui l'accompagne ne le permet pas. Ce que supposait celui qui me le chuchotait était au-delà de toute croyance humaine. D'autres choses n'étaient-elles pas encore plus au-delà, de très loin, ne laissant moins place au doute que par l'absence de toute preuve concrète les concernant? Comme j'essayais de me repérer dans ce chaos, je devins conscient d'un mélange de grincements et de vrombissements qui bientôt s'effaça dans un silence virtuel. Il allait se passer quoi? Allais-je entendre une voix? Et si c'était le cas, quelle preuve aurais-je que ce n'était pas quelque émission de radio dûment préparée, qui serait spécialement émise par quelqu'un dissimulé derrière un émetteur proche, mais qui nous regardait? Aujourd'hui encore, je ne jugerai pas de ce que j'ai entendu, ni quel phénomène a réellement eu lieu devant moi. Mais que quelque chose eut lieu, voilà l'évidence. Pour être bref et clair, la machine avec les tubes et le haut-parleur commença à parler, avec une précision et une intelligence qui ne laissaient aucun doute sur la présence réelle de celui qui parlait et qui nous observait. La voix était nette, métallique, mais sans vie, comme totalement mécanique dans chaque détail de son émission. Elle était incapable de nuance ou d'expressivité, mais raclait et crépitait avec une précision mortelle et une grande assurance.
« Monsieur Wilmoth, »
dit-elle,
« j'espère que je ne vous effraie pas. Je suis un être humain comme vous, même si mon corps est maintenant en lieu sûr, suivant un traitement vitalisant approprié sous la montagne de la Ronde, à peu près à 3 kilomètres d'ici. Mais moi, je suis avec vous. Mon cerveau est dans ce cylindre et je vois, entends, parle à travers ces capteurs électroniques. Dans une semaine, je traverserai le vide, ainsi que je l'ai fait de nombreuses fois déjà, et cette fois, ce sera avec le plaisir de la compagnie de Monsieur Hinckley. J'aimerais compter sur la vôtre aussi, parce que je vous connais de vue et de réputation, et que j'ai suivi de près votre correspondance avec votre ami. Je suis, bien sûr, un de ces hommes qui est devenu l'allié des êtres du dehors venus visiter notre planète. Je les ai d'abord rencontrés dans l'Himalaya, et j'ai pu leur rendre quelques services. En retour, ils m'ont offert des expériences comme si peu d'hommes en ont connu. Réalisez-vous ce que cela signifie si je dis que je me suis rendu sur 37 corps célestes différents, planètes, étoiles noires et des objets moins définissables, dont 8 en dehors de notre galaxie et 2 en dehors de l'espace-temps continu de notre cosmos. Et rien de tout cela ne m'a fait aucun mal. Mon cerveau a été extrait de mon corps par une excision si adroite qu'il serait cruel d'appeler cela une opération chirurgicale. Les êtres qui nous visitent ont des méthodes qui rendent cette extraction facile et presque banale. Et le corps ne vieillit plus quand le cerveau en a été retiré. Le cerveau, je dois ajouter, est quasiment immortel, ainsi que ses facultés mécaniques. Si on renouvelle régulièrement l'approvisionnement fourni par le fluide adapté, je souhaite de tout mon cœur que vous déciderez d'accompagner M. Hinckley et moi-même. Les visiteurs sont curieux d'échanger avec des hommes de connaissance comme vous l'êtes et de leur dévoiler ces grands abysses dont la plupart d'entre nous ne pouvions que rêver dans notre imagination ignorante. Cela peut surprendre tout d'abord d'avoir à les rencontrer. Mais je sais que vous êtes maintenant au-dessus de ce préjugé. Il se peut que M. Noyes nous accompagne aussi, l'homme qui certainement est celui qui vous a amené ici en voiture. Il est l'un des nôtres depuis des années. Je suppose que vous avez reconnu sa voix sur l'enregistrement que M. Hinckley vous a expédié.
À ma violente réaction, mon interlocuteur se tut un moment, avant de conclure.
Ainsi, Monsieur Wilmoth, je vous laisse avec votre décision. Je voudrais juste ajouter qu'un homme avec votre amour de l'étrangeté et du folklore n'oserait se refuser à une opportunité comme celle-ci. Il n'y a rien à craindre. Toutes les transitions sont sans douleur. Et il y a bien plus à apprécier dans notre état de sensation purement mécanique. Une fois les électrodes déconnectées, on tombe simplement dans un sommeil où les rêves sont fantastiques et colorés. Et maintenant, si vous en êtes d'accord, nous reprendrons notre conversation demain. Bonne nuit à vous. Veuillez simplement repousser ces commutateurs sur la gauche. Ne vous préoccupez pas de leur ordre exact, mais veuillez garder la machine à lentille pour la toute fin. Bonne nuit, Monsieur Wilmoth, et traitez correctement notre hôte. Prêt à pousser ses commutateurs.
Et ce fut tout. J'obéis mécaniquement et repoussai les 3 commutateurs, même envahi de doutes à propos de tout ce qui s'était passé. Ma tête était encore pensive quand j'entendis la voix chuchotée d'Hinckley me dire que je pouvais laisser tous les appareils sur la table comme ils étaient. Il ne tenta pas de commenter quoi que ce soit qui s'était dit, et évidemment aucun commentaire n'aurait pu alléger mes facultés débordées. Je l'entendis me dire que je pouvais emporter la lampe pour m'en servir dans ma chambre, et en déduisis qu'il préférait se reposer seul dans l'obscurité. Il était évidemment grand temps qu'il se repose, et nos conversations de l'après-midi et de ce soir auraient suffi à exténuer un homme vigoureux. Encore tout brouillé, je souhaitais bonne nuit à mon hôte et montais l'escalier avec la lampe, même si je m'étais muni aussi d'une excellente lampe torche. Je me sentis mieux de me trouver ailleurs que dans ce bureau du rez-de-chaussée, avec cette odeur bizarre et cette sensation persistante de vibration, mais ne pouvais échapper à un sentiment hideux de danger, voire de péril et d'anormalité cosmique si j'étais dans le lieu exact où ces forces se rassemblaient. Cette région sauvage et solitaire, les noires pentes couvertes de forêts encerclant la maison, les empreintes sur la route, ce chuchotement immobile dans le noir, et ces diaboliques cylindres et machines, puis par-dessus tout l'invitation pressante à une étrange opération, et d'encore plus étranges voyages, ces choses, toutes si nouvelles et dans une succession aussi soudaine, m'assaillirent avec une force cumulée qui sapait ma volonté et minait ma force physique. Découvrir que mon guide, Noyes, avait été dans le passé le célébrant humain de ce monstrueux rituel sabbatique de l'enregistrement phonographique était un choc violent, bien que j'eusse tout de suite ressenti une vague et répugnante familiarité dans sa voix. Un autre choc particulier venait de ma propre attitude envers mon hôte, chaque fois que je souhaitais l'analyser. Autant j'avais aimé Eckley de plus en plus à mesure qu'il se dévoilait dans sa correspondance, autant je me découvrais maintenant rempli d'une pure répulsion. Sa maladie avait excité ma pitié, mais à la place, j'en gardais une sorte d'ébranlement, de dégoût. Il était si rigide, inerte comme un cadavre, et cet incessant chuchotement, si haïssable et inhumain. Je finis par comprendre que ce chuchotement était différent de quoi que ce soit de la sorte que j'avais jamais entendu, et qu'en dépit de la curieuse immobilité de ses lèvres sous la moustache grise, sa voix avait une force et une portée remarquables pour un asthmatique en crise. J'avais été capable de le comprendre même alors que j'étais de l'autre côté de la pièce, et une fois ou deux, il m'avait semblé que ce son faible mais pénétrant ne provenait pas tant de sa faiblesse que d'une répression délibérée. Pour quelle raison, je n'arrivais pas à le deviner. Au tout début, j'en avais trouvé le timbre malsain et dérangeant. Maintenant, en essayant de peser les arguments, j'en associais l'impression à une sorte de familiarité inconsciente, comme celle qui m'avait fait trouver la voix de Noyes si vaguement menaçante. Mais quand et où j'avais croisé la chose qui expliquerait tout cela, je ne parvenais pas à le déterminer. Une chose était certaine, je ne passerai pas une nuit de plus ici. Mon zèle de scientifique avait fondu devant la peur et le dégoût, et je ne ressentais rien d'autre maintenant que le souhait de m'échapper de ce filet de morbidité et de révélations surnaturelles. Maintenant, j'en savais assez. C'était peut-être vrai que de tels liens cosmiques existaient, mais il n'est pas du tout indiqué aux êtres humains ordinaires de s'y frotter. Je me sentais oppressé par ces influences blasphématoires qui m'entouraient. De dormir, je décidais, il ne saurait être question. Aussi, j'éteignis la lumière et me jetai sur le lit tout habillé. Aucun doute que ce soit absurde, mais je voulais me tenir prêt pour une situation d'urgence. Ma main droite agrippait le revolver que j'avais apporté avec moi, et de l'autre main, je tenais ma lampe torche. Il ne venait plus un son d'en bas, et je pouvais imaginer mon hôte assis dans le noir, avec sa rigidité de cadavre. Quelque part, j'entendis une horloge sonner, et lui fus vaguement reconnaissant que ce soit un son normal. Cela me rappela cependant une autre chose du lieu qui me perturbait, l'absence de toute vie animale. Il n'y avait aucun animal dans cette ferme, mais je réalisais maintenant que même les bruits habituels de toute bête vivante avaient disparu. Or, les cascades sinistres d'eaux invisibles, ce silence était anormal, interplanétaire, et je me demandais quel intangible poison né des étoiles avait pu ainsi pleuvoir sur la région. Les anciennes légendes m'avaient appris que les chiens et les autres animaux avaient toujours haï les êtres du dehors, et je repensais à ce que les empreintes sur la route pouvaient signifier. Ne me demandez pas combien dura le sommeil de ma défaillance inattendue, et si ce qui s'ensuivit n'était, tout ou partie, qu'un simple rêve. Si je vous dis que je me réveillais à un certain moment, que j'entendis et vis certaines choses, vous répondrez probablement que je n'étais pas réveillé, et que tout cela n'était qu'un rêve, jusqu'à ce moment où je me précipitais hors de la maison, courus vers la remise où j'avais vu la vieille Ford, puis m'emparait du vénérable véhicule pour une course folle et sans but à travers les crêtes hantées dont je sortis enfin, après des heures à cahoter et tourner à travers l'épais labyrinthe de forêt, dans un village qui se révéla être Townsend. Vous pourrez aussi, bien sûr, contester l'ensemble de ce que je rapporte dans mon témoignage, et déclarer que les photographies, l'enregistrement, les voix émanant de la machine au cylindre et les autres preuves similaires ne venaient que de cette pure déception due à l'absence de Henry Heckley. Vous pourrez même prétendre que lui-même avait conspiré avec d'autres excentriques de sa sorte pour construire une farce folle et compliquée, qu'il avait lui-même retiré son colis à la gare de Keene et qu'il avait réalisé avec Noyce ce terrifiant enregistrement du cylindre de cire. C'est étrange aussi que Noyce n'ait pu encore être identifié, qu'il était inconnu de chacun des villages autour de chez Heckley, bien qu'il ait dû résider fréquemment dans la région. J'aurais préféré ne pas retenir la plaque d'immatriculation de sa voiture, ou bien peut-être c'est mieux après tout que je m'en souvienne. Parce que, en dépit de tout ce que vous pourriez me dire, et en dépit de ce que j'essaye moi-même de me dire, je sais que de dégoûtants pouvoirs du dehors se dissimulent dans ces montagnes mal connues, et que ces pouvoirs ont des émissaires et des espions dans le monde des hommes. Rester aussi à l'écart que possible de tels pouvoirs et de tels émissaires, voilà tout ce que je demande à la vie désormais. Quand, après mon histoire affolée, le shérif envoya quelques hommes à la ferme, Heckley avait disparu sans laisser de traces. Par terre, il y avait la grande robe de chambre, le châle jaune, des bandages de pied près du fauteuil dans le coin de la pièce, mais impossible de savoir si quoi que ce soit d'autre avait disparu avec lui. Des chiens et des volailles, bien sûr, il n'y en avait plus, et restaient seulement ces traces de balles sur les murs du dehors, plus quelques-unes sur les murs au-dedans. Hors de cela, on ne put rien déceler d'inhabituel. Il ne restait plus aucun des cylindres et des machines, aucune des preuves que j'avais rapportées dans ma valise, plus de mauvaises odeurs ni de vibrations, plus d'empreintes sur la route, et non plus ces choses incroyables que j'avais aperçues à la toute fin. Je restai une pleine semaine à Brattleboro après ma fuite, prolongeant l'enquête auprès des gens de toutes sortes qui avaient connu Heckley, et le résultat me convainquit que l'affaire n'était pas le produit inventé de mes rêves ou de mon délire. Les chiens, les munitions et les produits chimiques étaient des achats suffisamment hors du commun pour avoir été remarqués, ainsi que les coupures successives de la ligne téléphonique. Tandis que tous ceux qui le connaissaient, y compris son fils en Californie, confirmèrent que ses remarques régulières sur ses étranges études avaient quelque consistance. des citoyens respectables le prenaient pour un fou, et sans hésitation dirent que toutes ces preuves accumulées étaient probablement des farces ourdies par une ruse malsaine, peut-être appuyées par quelques excentriques associés. Mais les paysans et ruraux soutenaient le détail de toutes ces observations. Il avait montré à quelques-uns d'entre eux ses photographies, ainsi que la pierre noire, et leur avait fait entendre l'enregistrement hideux. Et tous disaient que les empreintes et ces chuchotements étaient tels que les décrivaient les légendes ancestrales. Ils disaient aussi qu'on avait remarqué des ombres et des sons suspects en nombre grandissant auprès de la maison des Clés, après qu'il avait trouvé la pierre noire, et que tout le monde en évitait le lieu désormais, à l'exception du facteur et de quelques personnes à fort caractère. La montagne noire et celle de la ronde étaient toutes deux notoirement des lieux hantés, et je ne pus trouver personne qui les ait explorés d'un peu près. Chacun pouvait aussi attester de la disparition occasionnelle de gens d'ici, tout au long de l'histoire du district, et elles incluaient désormais celle de Walter Brown, ce demi-vagabond qu'Eckley mentionnait dans ses lettres. Je rencontrai même un paysan qui pensait avoir vu personnellement un des étranges cadavres flotter dans la West River au temps des crues, mais son récit était trop confus pour être fiable. Quand je quittai Brattleboro, j'étais résolu à ne jamais revenir dans le Vermont, et j'ai la certitude que je m'en tiendrai à cette résolution. Ces crêtes reculées sont de façon sûre l'avant-poste d'une colonie d'une effrayante espèce cosmique, et j'en doute encore moins depuis qu'une neuvième planète a été découverte au-delà de Neptune, juste là où ces êtres avaient dit qu'elle serait aperçue. Les astronomes, après une connotation hideuse qu'ils ne peuvent suspecter, l'ont appelé Pluton. Je crois, sans aucune question, qu'il ne s'agit de rien moins que la noire Yugot, et je tremble quand j'essaye de me figurer les raisons réelles qui ont fait souhaiter à ces monstrueux habitants qu'elle soit ainsi découverte, et à ce moment précis. Je tente vainement de me rassurer quant au fait que ces créatures démoniaques ne sont pas progressivement en train d'installer une politique nocive sur cette terre, au détriment de ses habitants ordinaires. Je dois en terminer avec ce qui s'est passé à la fin de cette terrible nuit dans la ferme. Comme je l'ai dit, j'étais tombé dans une somnolence trouble, un sommeil rempli de brefs rêves qui évoquaient des aperçus de paysages monstrueux. Ce qui me réveilla, je ne peux le savoir, mais que je me réveillais brutalement à un moment donné, j'en suis certain. Mes premières et confuses impressions, le craquement fort et régulier des planchers sur le palier devant ma porte, et qu'on manœuvrait gauchement de façon assourdie le loquet. Mais cela s'arrêta très vite. Aussi mes vraies premières impressions claires furent celles de voix que j'entendis dans le bureau au-dessous. On aurait dit qu'ils étaient plusieurs à parler, et j'aurais juré qu'ils s'opposaient fermement. Au bout de quelques secondes, cette fois j'étais pleinement réveillé, et la nature de ces voix était telle que toute pensée de sommeil s'était évanouie. Les timbres se mêlaient curieusement, et quiconque avait entendu une fois l'enregistrement maudit ne pouvait avoir de doute sur la nature d'au moins deux d'entre elles. Aussi hideuse qu'en soit l'idée, je me découvris partager le même toit que les choses sans nom venues des abysses de l'espace. Deux de ces voix émettaient ces chuchotements blasphématoires que les êtres de là-bas utilisent dans leur communication avec les hommes. Les deux étaient individuellement distinctes, différentes en termes de hauteur, d'accent, de rythme, mais toutes deux étaient de la même espèce d'anable. La troisième voix était indubitablement celle d'une de ces machines à l'élocution mécanique raccordée à l'un des cerveaux isolés dans les cylindres. Et pas plus de doute possible à leurs propos que pour les chuchotements. Parce que cette voix lourde, métallique mais sans vie du soir précédent, incapable d'inflexion et d'expression, raclante et crissant, avec sa précision impersonnelle et son sens de l'affirmation, était inoubliable au possible. Au premier instant, je ne doutais pas que l'intelligence derrière la membrane était la même qui s'était adressée à moi le soir précédent. mais bientôt après, je pensais que n'importe quel cerveau émettrait des sons vocaux identiques, si reliés au même mécanisme émetteur de sons. Les seules différences possibles étaient celles de la langue, son rythme et sa vitesse, sa prononciation. Et pour compléter ce colloque de sabbat, je reconnus deux voix vraiment humaines. Le langage cru et rude d'un inconnu, évidemment de la région, et l'autre avec le suave accent de Boston de mon cher guide, Monsieur Noyes. Comme j'essayais de comprendre les mots que l'épais plancher de bois rendait assourdis, je fus aussi conscient, dans la pièce du bas, d'un grand remue-ménage fait de raclements, frémissements, battements. Pas possible d'échapper à l'impression qu'elle était remplie de ces êtres vivants, beaucoup plus que des quelques-uns dont je pouvais reconnaître les chuchotements. L'exacte nature de ces raclements, voilà qui est extrêmement difficile à décrire, parce qu'il existe bien peu de vraies bases de comparaison. Des objets semblaient ici et là se déplacer à travers la pièce comme des entités conscientes. Le bruit de leurs pattes avait quelque chose comme un cliquetis souple sur une surface dure, ou comme le contact mal coordonné de surfaces de cornes sur du caoutchouc dur. C'était, si je puis me permettre une comparaison plus concrète, mais un peu moins précise, comme si des gens avec des semelles de bois fendues traînaient les pieds et les faisaient s'entrechoquer sur le chêne ciré du plancher. De la nature de ce qui était responsable du bruit et de ce à quoi cela ressemblait, je n'osais pas spéculer. Très vite, je sus qu'il me serait impossible de reconstituer un discours continu. Des mots isolés, y compris le nom d'Eclet et le mien, ressortaient ici et là, prononcés le plus souvent par la voix synthétique. Ce qu'il signifiait, je ne pouvais rien en savoir, faute d'en connaître le contexte. Et aujourd'hui, je me refuse à en tirer quelques déductions définies, et même leur effroyable effet sur moi était une suggestion plutôt qu'une révélation. Un conclave terrible et anormal, j'en suis certain, s'était assemblé juste là-dessous. Pour quelles délibérations affreuses, comment le savoir ? Mais de façon curieuse, ce sentiment de blasphème pernicieux l'emportait en moi sur les assurances d'Eclet quant à l'amicalité de ses invités. En écoutant avec attention, je commençais à percevoir clairement les voix, même si je ne pouvais pas saisir beaucoup de ce que chacune d'elles disait. J'arrivais cependant à isoler un certain caractère derrière chacun des interlocuteurs. Tandis que la voix mécanique, malgré sa puissance artificielle et sa régularité, semblait en fait en position de subordonné, de plaideur. Le ton de Noyes participait plutôt d'une conciliation. Les autres, je ne pouvais pas réussir à les interpréter. Je n'entendis pas le chuchotement qui m'était devenu familier, celui d'Eclet, mais je savais qu'un tel son n'aurait jamais pu passer à travers le solide plancher de ma chambre. Je tentais de réunir ces quelques mots disjoints et les autres sons que je percevais, étiquetant mes interlocuteurs du mieux que je pouvais. C'est de la voix synthétique que je pus d'abord isoler des phrases reconnaissables.
« Les a apportés comme prévu. Renvoyer les lettres et l'enregistrement. Affaire classée. A vu et entendu. Mais quoi enfin ? Force impersonnelle après tout. Nouveau cylindre tout prêt. Grand Dieu.
Tant qu'on arrête, petit mais humain, Eclet, cerveau, Ali, Nyarlathotep, Wilmart, enregistrement, lettre, pauvre imposture.
M'gactum. Sans douleur, paix, l'affaire de deux semaines. Trop théâtral. Vous l'avez dit.
Pas de raison. Plan original. Mêmes effets. Noyes peut attendre. La ronde. Cylindre neuf. Voiture de Noyes.
D'accord. Comme vous. juste là-bas. Attendez. Chambre.
Voici la substance de ce que je puis entendre, tout en restant étendu, rigidement immobile sur ce lit dans cette ferme solitaire au milieu des collines hantées, étendu, tout habillé, un revolver agrippé dans la main droite et la lampe torche vissée à la main gauche. J'étais maintenant, je l'ai dit, tout à fait réveillé. Mais une sorte d'obscure paralysie continuait de me garder inerte même longtemps après que les derniers échos de ces voix se furent éteints. J'entendais le balancier lent et régulier de l'ancienne pendule du Connecticut quelque part au loin, et finalement y décernait le ronflement irrégulier d'un dormeur. Eckley devait s'être assoupi après cette étrange session, et je pouvais croire qu'il en avait besoin. Mais c'était ainsi. Savoir quoi penser ou quoi faire était au-delà de ce que je pouvais décider. Après tout, avec ce que j'avais entendu concernant ces choses, au-delà de tout ce que j'en savais auparavant, que pouvais-je attendre de plus? Est-ce que je n'avais pas été prévenu que les êtres sans nom étaient désormais librement admis dans la ferme? Aucun doute, ils avaient rendu à Eckley une visite inopinée. Quelque chose dans ce discours surpris par fragments m'avait glacé, placé dans le plus horrible et grotesque doute, et me faisait souhaiter avec une soudaine ferveur que je puisse me réveiller et considérer tout cela comme un rêve. J'étais persuadé d'avoir inconsciemment surpris quelque chose que ma conscience ne me permettait pas encore de reconnaître. Qu'en était-il d'Eckley? Est-ce qu'il n'était pas mon ami? N'aurait-il pas protesté si un quelconque mal m'était fait? Le ronflement régulier et tranquille que je percevais dans la pièce du dessous semblait rendre ridicule toutes mes peurs soudaines. Était-il possible qu'ils aient pu imposer à Eckley, en se servant de lui comme d'un leurre, de m'attirer dans ces montagnes avec les lettres, les photographies et l'enregistrement? Est-ce que ces créatures souhaitaient nous englober dans la même destruction parce que nous en étions venus à trop en savoir? À nouveau, je méditais sur ce changement de situation aussi abrupt que surnaturel, advenu entre l'avant-dernière lettre d'Eckley et la suivante. Quelque chose là, m'avertissait mon instinct, était terriblement faux. Rien n'était comme cela de vrai. Ce goût amer dans le café qui m'avait fait le jeter, est-ce que ce n'était pas une tentative de ces entités hideuses et inconnues de me droguer? Je devais en parler à Eckley à l'instant et réveiller sa méfiance endormie. Ils l'avaient hypnotisé avec leurs promesses de révélation cosmique, mais maintenant on devait le rappeler à la raison. Nous devions nous échapper de tout ça avant qu'il soit trop tard. S'il manquait de la volonté suffisante pour rompre et reprendre sa liberté, je m'en chargerais. Et si vraiment je ne pouvais le persuader de s'en aller, eh bien, je m'en irais seul. Il m'accorderait au moins d'emprunter sa Ford et de la lui laisser dans un garage à Brattleboro. Je l'avais aperçu dans la remise sous l'auvent, le portail laissé ouvert maintenant que le péril était derrière, et j'avais de bonnes raisons de croire qu'elle était prête à démarrer. Ce sentiment momentané de répugnance éprouvée à l'égard des clés pendant notre conversation du soir avait disparu. Il était dans une position équivalente à la mienne, et nous devions nous échapper ensemble. Sachant son indisposition, je détestais avoir à le réveiller dans cette conjoncture, mais savais devoir le faire. Pas question d'attendre jusqu'au matin ici, vu comment l'affaire s'orientait. Je commençais enfin à me sentir capable et m'étirais vigoureusement pour retrouver le contrôle de mes muscles. Me levant avec des précautions plus instinctives que délibérées, je trouvai et repris mon chapeau, ma valise, et descendis avec l'aide de la lampe torche. Ma nervosité était telle que je gardais dans ma main droite le revolver braqué, tenant la valise et la lampe torche ensemble de la gauche. Pourquoi je pris ces précautions, je n'en sais rien, puisque j'étais sur le point de réveiller le seul occupant de la maison. Comme je descendais sur la pointe des pieds l'escalier qui craquait vers le hall du rez-de-chaussée, j'entendais le dormeur plus distinctement et remarquais qu'il était dans une pièce sur ma gauche, un salon dans lequel je n'étais pas entré. Sur ma droite, il y avait l'obscurité parfaite du bureau dans lequel j'avais entendu les voix. Poussant la porte entrebâillée du salon, je me frayais chemin avec la lampe électrique vers la source du ronflement, puis enlevais le faisceau sur le visage du dormeur. Dans la seconde, je l'éteignis brusquement et fis une retraite de chat vers le hall, précaution cette fois participant de la raison autant que de l'instinct. Parce que le dormeur sur le canapé n'était pas Eckley, mais mon guide du matin, Noyce. Quelle était la situation réelle, je ne pouvais rien en savoir. Mais un reste de bon sens me dicta que le plus sûr était d'en apprendre le plus possible avant de réveiller quiconque. Une fois à nouveau dans le hall, je refermai silencieusement et fermement la porte du salon derrière moi. Peut-être une chance d'éviter de réveiller Noyce. Puis j'entrai avec précaution dans le bureau sans lumière, où je m'attendais à trouver Eckley, soit endormi, soit éveillé, assis sur le grand fauteuil qui, à l'évidence, était son lieu de repos favori. Comme j'entrais, le faisceau de ma lampe torche éclaira la grande table centrale, me révélant un des diaboliques cylindres avec la machine à lentilles pour voir et celle à disque pour entendre, raccordée, une des machines à voix synthétique tout auprès, prête à être reliée à tout instant. Ce devait être, je pensais, le cerveau placé dans le liquide que j'avais entendu parler durant l'effroyable conférence. Et pendant un instant, j'eus la tentation perverse de relier la voix mécanique et de voir ce qu'il aurait à dire. Il devait, j'en étais sûr, être conscient de ma présence dans la pièce. La vue et l'ouïe qui lui étaient raccordées ne pouvaient manquer de détecter les rayons de ma lampe torche et le faible craquement du plancher sous mes pieds. Mais désormais, plus question de toucher à ces choses. Je remarquai incidemment qu'il s'agissait du cylindre tout net et neuf qui portait le nom d'Eckley, que j'avais remarqué sur l'étagère plus tôt dans la soirée, et dont mon hôte m'avait signifié de ne pas me préoccuper. Me rappelant cet instant, je ne peux que regretter ma timidité et souhaiter avoir autorisé l'appareil à parler. Dieu sait quels mystères et quels horribles doutes et questions d'identité auraient pu être levés. Mais c'était alors miséricorde de le laisser. De la table, j'orientai la lampe sur le coin où je pensais trouver Eckley, et quelle fut ma perplexité de découvrir le grand fauteuil vide de tout occupant endormi ou éveillé. Du fauteuil avait glissé par terre l'amas familier et volumineux de la vieille robe de chambre, près d'elle sur le plancher le châle jaune et les énormes bandages de pieds que j'avais trouvés si bizarres. Tandis que j'hésitais, multipliant les conjectures d'où je pouvais trouver Eckley et pourquoi il s'était si soudainement dépouillé de ses vêtements de nuit, je notais que l'odeur étrange et l'impression de vibration avaient cessé dans la pièce. Quelle avait été leur cause? Je me fis la remarque que je ne les avais perçus qu'une fois dans la proximité immédiate d'Eckley. Je les avais ressentis plus fort là où il était assis et quasiment absentes ailleurs, sauf dans cette pièce où il était, ou juste devant la porte. Je m'immobilisais, faisant le tour de la pièce avec ma lampe torche, et me triturant le cerveau pour des explications quant au tour que prenait l'affaire. Pour l'amour du ciel, que n'ai-je quitté la pièce avant de porter à nouveau ma lampe sur la chaise vide ? Et de ce que je vis, je ne pus retenir un cri vite étouffé, mais qui devait bien avoir rejoint, sinon parfaitement éveillé, la sentinelle endormie de l'autre côté du hall. Ce cri et le ronflement qui avait repris du côté où était Noyce sont les derniers sons que j'eus jamais entendus dans l'étouffement morbide de la ferme, sous les bois noirs de la montagne hantée, ce foyer d'horreur transcosmique parmi les crêtes vertes reculées et le chuchotement maudit des torrents invisibles d'un pays de spectres. C'est miracle que je n'ai pas laissé tomber ma lampe torche, la valise et le revolver dans ma frayeur, mais quoi qu'il en soit, cela ne se produisit pas. Comment je fis pour échapper à cette pièce, puis à cette maison sans faire plus de vacarme ? atteindre avec toutes mes affaires la remise où était la vieille Ford, puis démarrer le véhicule archaïque vers un point inconnu dans la nuit noire et sans lune pour me retrouver en sûreté. Le voyage qui suivit fut un moment de délire digne de Poe et de Rimbaud, ou d'une gravure de Doré, mais finalement je me retrouvai à Townsend. C'est tout. Si ma santé mentale n'est pas définitivement perturbée, j'ai de la chance. Parfois, je crains ce que les années à venir apporteront, surtout depuis qu'on a découvert cette nouvelle planète, Pluton. Ainsi que je l'ai indiqué, j'avais braqué ma lampe sur le fauteuil vide après avoir fait le tour de la pièce, remarquant alors pour la première fois la présence d'objets sur le siège que je n'avais pas perçu à cause de la découverte des vêtements vides abandonnés. Ce sont ces objets, au nombre de 3, que les enquêteurs n'ont pas retrouvés quand ils sont arrivés un peu plus tard. Comme je l'ai dit en commençant, rien ici qui tienne visuellement de l'horreur. Le trouble considérable, c'est ce qu'il me conduisait à en déduire. Même aujourd'hui, j'ai des moments de doute, des moments dans lesquels j'accepte à moitié le scepticisme de ceux qui attribuent l'ensemble de mon expérience à un rêve, à l'état de mes nerfs ou au délire. Les 3 choses étaient de remarquables objets dans leur catégorie, conçus pour fixer sur une armature métallique ingénieuse des formes organiques dont je n'ose pas conjecturer qui les a fabriquées. J'ai espoir, un espoir religieux, qu'ils soient les produits de cire d'un maître artiste, en dépit de ce que mes peurs les plus intimes me dictent. Grand Dieu! Ce chuchotement dans la nuit, son odeur morbide et ses vibrations. Sorcier, émissaire, voleur d'identité, alien, ce bourdonnement hideusement retenu, et tout le temps ce cylindre neuf et net sur l'étagère. Pauvre diable. Chirurgie prodigieuse, biologique et chimique, génie mécanique. Parce que ces choses dans la chaise, parfaites au dernier point, dans le plus subtil détail et la ressemblance microscopique ou l'identité même, étaient le visage et les mains de Henry Wentworth Eckley.